Bonjour à toutes et à tous. Merci à Gérard Noiriel d'avoir accepté de venir présenter ce soir son livre « Immigration, antisémitisme et racisme en France, 19e-20e siècle, discours public, humiliation privée ». Alors quelques mots pour introduire très brièvement cette rencontre, parce que c'est Gérard Noiriel que vous êtes venu entendre. Il me paraît intéressant de clore le cycle « Histoire et mémoire » que nous avons initié en janvier 2006, à partir des débats qui existaient autour des lois dites mémorielles, en abordant l'histoire et la mémoire de l'immigration. En effet, dans l'introduction de votre ouvrage, vous écrivez « J'ai tenté de rassembler les connaissances dont nous disposons aujourd'hui sur l'histoire de l'immigration, en prenant comme fil conducteur la question de l'antisémitisme et du racisme, mais j'ai voulu montrer le lien entre la dimension proprement politique de ces problèmes et la dimension sociale, enracinés dans le jeu des relations que les individus tissent entre eux au cours de leur vie quotidienne. Je suis en effet convaincue que pour comprendre pourquoi les discours publics exprimant le rejet ou la haine des autres ont connu autant de succès dans notre histoire contemporaine, il faut remonter à leurs sources, c'est-à-dire aux expériences vécues qui constituent la trame de nos existences. » Je pense que c'est vraiment, ça montre tout à fait ce lien entre histoire et mémoire. Parler de l'histoire d'immigration, évidemment, c'est essentiel aussi pour éclairer les débats liés à l'actualité plus immédiate. De ce point de vue, vous pourrez sans doute répondre aux nombreuses questions qui ne manqueront pas de vous être posées sur la Cité nationale de l'histoire et de l'immigration, de l'histoire de l'immigration, les débats qui ont accompagné sa création, les démissions récentes d'historiens du comité, de ce comité, dont la vôtre. Vous êtes un des grands spécialistes de l'histoire de l'immigration. Histoire pratiquement inexistante il y a encore 30 ans. En 1988, vous écriviez « Le creuset français, histoire de l'immigration au 19e-20e siècle », dans un contexte précis, la montée du Front national, et dans le but de convaincre la communauté historienne de l'importance de ce domaine de recherche. L'objectif du creuset français était de faire une place légitime aux immigrants récents dans l'histoire de France. Et effectivement, ce livre a largement contribué à cette reconnaissance, même si certains ont cru discerner un risque d'apologie du modèle français de l'intégration. Vous en parlerez peut-être. Les choses sont beaucoup plus complexes. Et 20 ans après, l'historien que vous êtes peut aborder plus frontalement des éléments comme les rapports entre discours public et humiliation privée, comme la place de la question coloniale, etc. Vous avez par ailleurs écrit de nombreux ouvrages. Je ne vais pas tous les citer ici. Je citerai en particulier « Sur la crise de l'histoire », réédité chez Gallimard Folio Histoire en 2005, « Penser avec, penser contre » en 2003 chez Belin, « Les fils maudits de la République, l'avenir des intellectuels en France » en 2005 chez Fayard. Ces livres, une bibliographie détaillée, un petit dossier avec certaines de vos contributions, dont l'article « Sur l'histoire de l'immigration » paru dans « Hommes et migration » en mai-juin 2005, sont disponibles dans la salle du département Civilisation, ainsi que le dossier de presse réalisé par la Cité nationale de l'histoire de l'immigration à l'occasion de son ouverture prochaine. Vous en parlerez. Donc, je vous laisse la parole.
Deux micros, c'est rare. C'est là qu'on voit grandir la notoriété. Eh bien, je voulais vous remercier très sincèrement de m'avoir invité à cette conférence, présentation de mon dernier livre. Lorsque nous en avons convenu, l'actualité n'était pas aussi chargée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de réduire un petit peu le temps que j'avais prévu pour la présentation de mon livre, et puis qu'on ait un peu plus de temps pour discuter de tous les éléments actuels, parce que, d'une part, parce que moi, je préfère toujours quand il y a de l'échange, parce qu'au moins, on a le sentiment que ce qu'on raconte correspond à des préoccupations et des intérêts. Et puis, d'autre part, pour moi, tout est lié, c'est-à-dire que, par exemple, ma démission des instances dirigeantes de la Cité nationale de l'immigration, c'est une conclusion logique de ce que j'ai écrit dans mon livre sur les rapports entre discours public et humiliation privée. Donc, et ça, pour moi, c'est important parce que je crois aussi à la responsabilité des intellectuels. Et je crois que ce qu'on écrit, eh bien, doit avoir aussi un rapport avec nos pratiques, si vous voulez. Et malheureusement, parfois, il y a une déconnexion très grande entre ce que les gens peuvent écrire et ce qu'ils font. Donc, là, il y a là un va-et-vient qui correspond à la conception que j'ai de mon travail, donc de mon métier d'enseignant-chercheur. Et c'est aussi, au-delà de, je dirais, d'une conception du métier, une sorte d'éthique ou d'idéal civique qui explique mon intérêt pour ce sujet depuis extrêmement longtemps. Donc, effectivement, j'ai écrit ce livre parce que je sentais que le moment était venu de faire, disons, un petit peu un bilan des travaux que j'avais pu publier antérieurement, et notamment de cet ouvrage, Le Creuset français, qui a été donc qui a joué un rôle dans la promotion de ce domaine qui est devenu aujourd'hui l'histoire de l'immigration, mais aussi qui avait fait, comme tout ouvrage d'ailleurs, l'objet d'appropriations différentes, voire contradictoires. Et notamment, c'est ce que j'essaie de rappeler dans l'introduction de mon dernier livre, ce qui m'avait surpris, beaucoup surpris, c'est que ce que j'essayais de dire explicitement déjà à cette époque-là, c'est-à-dire que mon rôle, c'était d'essayer de définir un espace centré sur la connaissance, l'explication, la compréhension des phénomènes et non pas le jugement, eh bien, était presque toujours rabattu sur le jugement de valeur, c'est-à-dire ce que j'appelle moi la mémoire, et qu'on avait beaucoup de mal à maintenir donc un espace donc de réflexion autonome. Donc ça pour moi c'est un enjeu, et mon action civique aussi elle tourne autour de ça. Et je suis par ailleurs, je m'occupe par ailleurs de sur le plan directement militant, je suis président du comité d'aide aux intellectuels réfugiés, j'ai donc une action militante, mais là, je la mets à part, si vous voulez. Et dans le champ proprement intellectuel, eh bien, voilà, mon action, c'est toujours de promouvoir, je dirais, les résultats, les acquis de la recherche historique dans des langages qui soient accessibles aux citoyens qui ne sont pas spécialistes. Parce que je pense que on donne ainsi des outils aux gens pour qu'ils se déterminent eux-mêmes par rapport à des enjeux qui les concernent. On n'a pas à parler à leur place. Alors, peut-être j'y reviendrai tout à l'heure dans la discussion par rapport, justement, puisque c'est le cycle, je crois, sur les enjeux de mémoire, les lois de mémoire. Je crois que Pierre Nora est venu ici présenter son point de vue. Donc, il y a des enjeux aussi sur la conception du rôle de l'historien dans la cité, entre une conception qui est plutôt celle du rôle de l'expert et celle que je défends, moi, qui est plutôt, je ne suis pas le seul, Dieu merci, mais celle de l'intellectuel spécifique, si vous voulez. Donc, moi, je m'inscrirais plus dans une tradition qui a été en France représentée d'une manière très, évidemment, prestigieuse par des philosophes comme Michel Foucault ou bien comme des sociologues comme Pierre Bourdieu. Donc c'est... alors le Creuset français, de ce point de vue-là, ben, j'avais été un peu déçu parce que bon, il y avait ceux qui disaient que je faisais l'apologie de la mémoire, le devoir de mémoire, bon, c'est un thème très récurrent dans le débat public, ou alors à l'inverse, ceux, à cause de l'expression Creuset, qui n'était pas de moi mais de l'éditeur, croyaient que j'étais un défenseur de l'intégration, de tout ça, etc. Donc, en tant que chercheur, je suis ni pour ni contre, c'est pas mon problème, c'est d'expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, les gens, ils se débrouillent. Mais, donc voilà, donc ça, pour moi, c'était très important de rappeler ce point-là. Et à partir de là, donc, de développer une analyse qui est aussi en partie critique, parce que, vous savez, Max Weber disait que c'était une chance de voir un travail qu'on avait pu faire dans sa jeunesse vieilli ou dépassé, parce que c'était la preuve que d'autres s'étaient intéressés à la même chose que vous. Hein. Donc, on se console comme on peut. Mais pour moi, c'est quand même important, parce que vous savez, dans le milieu de la recherche, moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans une solitude très grande, parce qu'ils sont seuls ou dans petits groupes à travailler sur des choses extrêmement pointues, et c'est pas forcément facile à vivre. Ça dépend des tempéraments, mais en tout cas, pour moi, c'était une grande chance d'avoir travaillé sur un sujet qui rencontrait de l'écho, qui suscitait des débats, qui nécessitait des rectifications, etc., etc. L'autre point que je voulais souligner pour faire le lien avec ces premiers travaux, c'est que finalement, je me suis rendu compte que, c'est pour ça que je cite en référence une citation, enfin une phrase tirée de Louis Althusser, qui a été un des premiers les premiers maîtres à penser, entre guillemets, dans ma phase de jeunesse marxiste, et qui disait « il faut du temps pour comprendre, surtout ce qu'on a écrit ». Et je trouvais que cette phrase était très juste parce que, vous voyez, après coup, quand on revient sur des choses qu'on a écrites antérieurement, bon, on s'aperçoit de certains qui avaient des évidemment, ce qui vous motivait, c'était pas forcément ce que vous avez dit explicitement, etc. Et quand j'ai relu comme ça l'introduction du Creuset français, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui me préoccupait déjà très fortement, c'était le discours public, la représentation, donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui de termes qui me semblent beaucoup très galvaudés, le racisme, la xénophobie, etc. Mais, disons, donc j'explique aussi dans l'introduction les raisons un peu personnelles que j'avais de m'intéresser à ça, mais je n'étais pas encore en état à l'époque de l'affronter directement. Et je pense, donc pour moi, c'est, comment dirais-je, une sorte de satisfaction, ce dernier livre, parce que, même si j'ai intégré dedans toute une série de choses sur l'histoire d'immigration publiée depuis 20 ans, le fil conducteur, c'est celui-là. Le fil conducteur, c'est vraiment ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. C'est-à-dire faire une analyse sur les rapports entre les discours publics et les humiliations privées, c'est-à-dire comment les discours publics peuvent être ressentis comme des insultes par les personnes. Et ça, c'est, je dirais... C'est pas un thème qui intéresse finalement beaucoup de monde, parce que ça nécessite de croiser toute une série de choses, y compris sur le plan méthodologique. Je vais peut-être pas trop insister là-dessus, sauf si après dans la discussion ça vous intéresse. Mais il faut croiser là des problématiques sociologiques ou historiques qui sont assez écartées, si vous voulez, entre des approches de type analyse de discours d'un côté et des approches de type analyse de... La stigmatisation, vous voyez, qui relève plutôt de la psychologie sociale ou de la sociologie interactionniste de type Goffman, etc. Donc le livre, il y a cette dimension, c'est-à-dire essayer de mesurer le rapport entre les deux, c'est-à-dire développer une approche du discours qui s'écarte de l'histoire des idées au sens où il s'agit de mesurer quels sont les effets, c'est-à-dire la réception des discours. Alors ça, c'est... Je crois, sur le plan méthodologique, enfin, c'est ce qui me motive le plus, je crois qu'on a un déficit énorme chez les historiens d'analyse de ce type-là, que quand on commence à travailler là-dessus, on découvre toute une série de choses. Je t'en dirai quelques mots peut-être sur l'analyse que j'ai faite sur l'antisémitisme, la naissance de l'antisémitisme en France à l'époque de Drumont, dans son livre « La France juive », que j'ai analysé non seulement à partir de la construction de la rhétorique, mais aussi de la réception. Enfin, en gros, je pense que si on fait une analyse en termes de rhétorique, il faut forcément étudier la réception, puisque la rhétorique, au sens fort du terme, c'est l'art de la persuasion. Donc quelqu'un qui manie la rhétorique, il essaye de convaincre les gens auxquels il s'adresse. Et le défaut des intellectuels, l'ethnocentrisme intellectuel, c'est uniquement d'analyser des arguments. Alors je crois que le contexte politique aujourd'hui peut-être permet de comprendre aussi ce que je veux dire, si vous voulez, que dans un déficit aussi... qui est la responsabilité peut-être propre des intellectuels, de faire des analyses précises d'une situation politique donnée et du rôle que le discours peut jouer dans la mobilisation de l'opinion publique, de l'électorat, etc. Et donc, cette thématique que j'ai appliquée évidemment à la question de l'immigration, qui est centrale mais qui n'est pas la seule, ça pourrait, la problématique que j'ai développée pourrait être appliquée dans beaucoup d'autres domaines, eh bien, je crois qu'elle est productive de regard et de compréhension nouvelle sur ces thèmes qu'on a désignés, qu'on désigne encore, avec des mots qui sont très très lourds historiquement, d'antisémitisme, de racisme, de xénophobie, etc. Donc ça, c'est l'enjeu, l'ambition, je dirais, de cet ouvrage. Et évidemment, cette ambition, elle débouche aussi sur une conclusion pratique. Parce que si vous prenez au sérieux la question de la réception, ça pose aussi le problème de votre propre rôle en tant que producteur de discours. Vous êtes, ce que j'essaye de dire au départ, pour moi, le monde social se divise en deux grandes catégories. Une petite élite de privilégiés, dont je fais partie aussi, qui a le privilège, le pouvoir de parler en public ou d'écrire en public, donc de s'adresser à un grand nombre de personnes, et puis la majorité des gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer en première personne dans l'espace public et qui donc sont souvent contraints d'utiliser les constructions des autres, ou les images, les stéréotypes, ou les discours des autres. Donc ça, c'est un, je crois que c'est un élément, enfin moi je le tiens, évidemment, enfin je parle inventeur de ça, moi je le tiens de Pierre Bourdieu, c'est vraiment ce que Pierre Bourdieu m'a appris de plus précieux, enfin ce qui m'intéressait vraiment le plus, et c'est quand même, vous voyez, un élément subversif, parce que du coup, si vous raisonnez comme ça, ben, vous ne pouvez pas uniquement dire la droite, la gauche, etc., il faut aussi analyser le monde dans lequel vous vivez vous-même, et donc les milieux dans lesquels vous êtes, et d'essayer de tourner les armes de la critique aussi en direction de votre propre sphère, et s'il y a une chose que les intellectuels n'aiment pas, c'est que les outils qu'ils ont forgé pour analyser les autres, soit utilisés pour analyser leur propre manque. Et parfois, donc, c'est parce que ça peut être aussi très douloureux, etc. Mais je crois que c'est, surtout aujourd'hui, absolument indispensable. Voilà, donc, dernier point, peut-être dans cette présentation globale, c'est que donc, j'inscris mon travail dans une démarche que j'appelle la socio-histoire. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Introduction à la socio-histoire » qui est paru dans la collection Repère chez Belin, qui essayait d'une manière extrêmement simple de donner quelques éléments pour les étudiants ou les gens qui s'intéressent à ces questions-là, de ce qu'on pouvait définir aujourd'hui en France comme socio-histoire. Ce n'est pas une théorie, moi je ne suis pas du tout un esprit théorique, c'est plutôt une boîte à outils, voilà, c'est-à-dire forger des outils pour voir un certain nombre de choses en fonction d'un certain nombre de préoccupations. Donc la socio-histoire, disons très simplement, combine la sociologie et l'histoire, mais elle combine ces deux disciplines dans leur geste fondateur, je dirais. On oublie souvent que l'histoire, au départ, était une discipline critique. Que quand vous regardez, bon, par exemple, en Allemagne, dans la première moitié du XIXe siècle, puisque c'est là que l'histoire, au sens de la discipline historique, s'est constituée, bien, le but de l'histoire, c'est de montrer l'historicité du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que le présent est pétri d'histoire, et que le fait de ne plus avoir conscience de cette historicité, eh bien, est un des éléments qui peut contribuer à véhiculer des stéréotypes. Hein. C'est un point très important dans le langage, parce que le langage que nous utilisons tous les jours, il est pétri d'histoire, et c'est cette histoire-là que nous charrions très souvent lorsque nous parlons. Donc j'avais fait une étude sur l'histoire du mot nationalité pour expliquer pourquoi en France, sans arrêt, on venait sur ces questions de nationalité. Et c'est là qu'on voyait l'importance de l'histoire. Et la sociologie, sa dimension critique, c'est de déconstruire les entités collectives, l'État, la nation, le peuple, etc., etc., pour retrouver les individus et les relations entre les individus. Donc pour moi, le croisement entre les deux disciplines, c'est évidemment d'analyser les relations de pouvoir qui sont un des moteurs du fonctionnement et un des ciments d'une société. Donc voilà un petit peu la perspective dans laquelle je me situe. Donc c'est une perspective qui, évidemment, est une perspective critique, mais ce n'est pas une perspective dénonciatrice. C'est-à-dire, par rapport à la génération d'avant, qui avait tendance à avoir une vision dénonciatrice du pouvoir, hein, dans certains écrits de Foucault, le pouvoir c'est mal, c'est mauvais, etc., dans la perspective, c'est plutôt d'analyser ça comme une des composantes du fonctionnement d'une société. Donc le pouvoir peut générer tout autant de la solidarité que de la domination. Je m'éloignerai un peu de mon objectif, mais enfin, voilà le soubassement. Alors évidemment, dans le cas de l'immigration, la balance n'est pas égale, puisque étudier l'immigration, c'est étudier des formes de domination étatique et des formes d'exclusion qui pèsent sur des groupes qui n'ont pas accès à l'espace public parce qu'ils n'ont pas la nationalité, je dirais fondamentalement. Puis que aussi, en plus, la plupart du temps, ils sont issus des milieux populaires. Les milieux populaires n'ont pas, évidemment, un accès direct à la parole publique. Donc, la question de l'immigration éclaire directement toute une série d'enjeux sur les formes de domination propres aux sociétés démocratiques. Alors ça, c'est un point aussi qui m'importe, c'est-à-dire que par rapport à des gens qui présentent la démocratie comme l'aboutissement du monde, la fin de l'histoire, comme disent certains, évidemment, moi, je fais partie de ceux qui interrogent la démocratie, même si on peut considérer qu'il n'y a pas d'autre régime qui puisse la remplacer, eh bien, évidemment, il y a différentes conceptions de la démocratie. Moi, je partage une définition qui considère que la démocratie n'en a jamais fini avec elle-même, si vous voulez. Parce que si vous prenez au mot, par exemple, le principe d'égalité, eh bien, nous sommes encore loin du compte, que ce soit sur le plan économique, social ou culturel. Voilà, alors dans cet ouvrage, j'ai essayé de retracer la question de l'immigration avant même que le mot immigration existe dans le vocabulaire public français, puisque le mot immigration il n'apparaît qu'au début de la Troisième République. C'est vraiment un vocabulaire étatique, c'est un vocabulaire qui apparaît d'emblée dans les débats politiques et administratifs au niveau de l'État. Et le mot immigration en français, dans son sens habituel, désigne deux choses, c'est-à-dire le déplacement dans l'espace, mais aussi le franchissement d'une frontière. Donc vraiment, le mot immigration, il fait irruption dans le débat politique français au moment où la frontière entre Français et étrangers se constitue. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais j'ai fait une sorte un petit peu de préhistoire de cette notion en remontant aux prémices, c'est-à-dire à la constitution de l'État français. Mais ça, j'ai été très rapide, parce que je ne suis pas spécialiste en plus de l'Ancien Régime, mais parce que c'est quand même une chose que j'avais négligée dans mes travaux antérieurs. Et aujourd'hui, on a toute une nouvelle génération de jeunes historiens qui ont travaillé beaucoup avec Daniel Roche, qui ont mis en valeur l'importance de la phase monarchique de la construction de l'État, hein, l'État monarchique, donc où toute une série de choses, y compris dans les papiers d'identité, par exemple la technologie des premières formes de passeport, etc., eh bien, des éléments, des techniques qui se mettent en place avant la Révolution française, et que moi, en tant que contemporanéiste, j'avais tendance à dater d'après la Révolution. Mais si vous voulez, la Révolution française constitue naturellement malgré tout une rupture, puisque la Révolution française, c'est la construction de la communauté nationale et de la citoyenneté au sens d'une égalité des droits fixée dans le Code civil. Enfin, égalité qui est aussi une inégalité, mais enfin, par rapport à l'Ancien Régime, il n'y a plus évidemment de société d'ordre, etc. Donc il y a bien un élément de rupture. Mais là aussi, je le dis en passant, il y a une période très intéressante, c'est celle qui va en gros de la Révolution jusqu'à la Troisième République, où ça correspond à un premier âge de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie qui ne concerne qu'une petite fraction de la population française. C'est la fraction éclairée, c'est la fraction de ceux qui savent lire et écrire dans une société qui, je le rappelle, en majorité, est encore analphabète, dans un monde où trois quarts de la population, sinon plus, sont paysans. Donc ça, c'est un point très important, puisque on voit très bien dans les discours, notamment de républicains d'opposition, sous le Second Empire, notamment, eh bien, l'idée de civiliser les campagnes. Hein. Donc on a presque quelque chose qui est contemporain de la colonisation. Ça, c'est un point important. Il ne faut pas séparer trop l'étude de l'histoire coloniale et l'étude de l'histoire des campagnes françaises au XIXe siècle. Il y a des points communs. Hein. C'est cette notion de civiliser le peuple, civiliser les masses, et ça passe donc par un accès à l'écriture. Donc c'est tout le thème de Jules Ferry, qui a été à la fois un homme fondamental dans le domaine de l'école, dans le domaine de la colonisation, qui est donc diffuser une civilisation, et la civilisation, ça veut dire la culture écrite. Et donc, c'est très important parce qu'on voit, par rapport à mon objet, parce qu'on voit, par exemple, sous la monarchie de Juillet, déjà des migrants sont des gens qui viennent d'ailleurs qui viennent de partout. Il y en a qui, beaucoup viennent des régions de la Creuse, des régions montagnardes, des campagnes pauvres de la France, mais ils peuvent venir aussi de Belgique, ils peuvent venir du Piémont, etc. Il n'y a pas encore de définition par la nationalité, par l'appartenance nationale à cette époque-là. La représentation qui est construite des migrants, c'est, selon une formule que Louis Chevalier a rendue célèbre, classe laborieuse, classe dangereuse. La frontière fondamentale dans la société française jusqu'à la Troisième République, elle oppose les élites et le peuple, c'est-à-dire ceux qui savent lire le journal et écrire, et ceux qui ne savent pas. Donc c'est pourquoi cette période est intéressante, parce qu'on a évidemment les élites, la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, mais aussi la fraction militante du monde ouvrier, les artisans, vous voyez, dans les villes. Bon, ceux-là sont intégrés à cette société qui peut communiquer à distance parce qu'ils savent lire et écrire, et le reste et encore dans les ténèbres, comme on disait, hein, ne pas considérer comme faisant vraiment partie de la nation française. Et c'est très important, si vous voulez, bon, je dis ça en passant, mais même pour comprendre et ne pas faire d'anachronisme sur Gobineau. Quand on lit Gobineau, c'est l'essai sur l'inégalité des races. On présente Gobineau comme le père fondateur du racisme. Pour moi, ce n'est pas vrai, c'est un anachronisme. Gobineau appartient à une époque qui précède la construction des discours contemporains que sont le racisme, l'antisémitisme, etc. Il est vrai que Gobineau a un discours sur l'inégalité des races, donc sur le fait que l'impossibilité donc d'assimiler les Noirs, les Asiatiques, etc., etc. Mais en même temps, dans Gobineau, il dit la même chose sur les paysans. Hein? C'est ça que beaucoup de gens qui lisent Gobineau ne voient pas. Il dit la même chose sur les paysans. Il dit en France, il y a 20 millions de personnes qu'on ne peut pas assimiler, qui représentent des races différentes. Et donc, il y a tout un passage très intéressant sur la cruauté des paysans. Enfin, bon, Gobineau représente encore la vieille vision raciale qui était celle de l'aristocratie, qui a été mise en circulation en France par Boulainvilliers au XVIIIe siècle, en disant, eh bien, il y a une race privilégiés en France, ce sont les nobles, c'est l'aristocratie parce qu'ils descendent des Francs, et cette race, elle ne souhaite pas être assimilée aux autres races que sont les Gaulois, etc., etc. Donc Gobineau appartient encore à cette période, et il y a vraiment là une rupture sur laquelle j'insiste depuis très longtemps, et j'insiste encore plus aujourd'hui, qui est la rupture de la Troisième République. Donc dans mon livre, j'ai vraiment insisté là-dessus, j'ai fait un chapitre sur la construction de l'espace public républicain. Parce que je pense qu'aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde qui a été inventé à ce moment-là, au début de la Troisième République. Et je dis souvent, si j'étais obligé de donner une date vraiment fondatrice de la modernité française, je ne dirais pas 1789, je dirais 1889. 1889, c'est la première loi sur la nationalité française. Hein. C'est vraiment, je crois, à ce moment-là que l'on commence vraiment à savoir distinguer un Français et un étranger. Bien sûr, on le savait avant, dans les élites, mais beaucoup d'historiens ont tendance à universaliser ce qu'ils lisent dans des discours qui ne s'adressaient qu'à des élites. Vous voyez ? Mais non, ce n'est pas de bonne méthode, surtout quand on fait de l'histoire sociale. Il faut aussi mesurer le degré d'extension des propos qui sont tenus par les acteurs d'une époque aux différents milieux sociaux. Et jusqu'à début de la Troisième République, eh bien, les élites, y compris les juristes, ils ne savaient pas, au sein des classes populaires, qui était français, qui ne l'était pas. Je dirais que globalement, ça ne les intéressait pas, parce qu'il y avait cette vision, classe laborieuse, classe dangereuse. Bon, tout ce qui se passait dans le peuple, bon, voilà, c'était ailleurs, c'était pas nous, c'était eux. Et donc la Troisième République construit ce « nous » national, parce que la Troisième République, c'est un moment très fort de démocratisation de la société française. Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser ? Ça veut dire intégrer les classes populaires au sein de l'État national. Et c'est ça que fait la République, la Troisième République. Donc, vous voyez, on ne peut pas juger, on ne peut pas dire c'est bien, c'est pas bien, parce qu'il y a à la fois, si vous voulez, du positif et du négatif. Le positif, si on veut raisonner comme ça, bien, c'est justement ce processus d'intégration, qui était le grand idéal républicain. Hein. On va donner le droit de vote, ou enfin, il existait déjà, mais enfin, on va permettre aux ouvriers, aux paysans, vraiment de participer à la vie politique. On développe des lois scolaires, le journal, il y avait 1 million d'exemplaires de quotidiens vendus en 1870, il y en a 10 millions 20 ans plus tard, donc c'est extraordinaire comme transformation de l'espace public. Il y a toute une série de mesures comme ça qui sont vraiment démocratiques, mais en même temps, on construit une clôture autour de l'espace national, et c'est à ce moment-là que l'opposition entre nationaux et étrangers se constitue. Donc il y a une construction là extrêmement importante qui se met en place à partir de ce moment-là. Donc je l'ai analysé dans ce livre, et j'ai montré par exemple que si vous lisez les essais des élites du Second Empire, je pense des économistes qui étaient saint-simoniens, très souvent comme Audigan par exemple, qui écrit un essai sur les ouvriers, donc c'était la tradition des voyages, vous voyez, donc ils se déplacent dans la France entière, et puis ils disent ce qu'ils voient. Donc Audigan, il va à Marseille, dans les années 1860, il y a à peu près un taux d'immigration qui est aussi fort, sinon supérieur à aujourd'hui, hein. Quand on regarde les archives, je travaille un peu dans les archives, donc on s'aperçoit qu'il y a une violence entre les individus, entre ces ouvriers venus de différents horizons qui est très forte. Il y a une montée du rejet des Piémontais. Il y a des crimes, une violence qui est relatée par les rapports de police. Et Audigan, il ne voit rien. Hein, il ne voit pas. Il parle des ouvriers, de la classe ouvrière ou des classes ouvrières, parce qu'on employait souvent le pluriel. Il va dans le Nord, où à Roubaix, vous avez une majorité d'ouvriers, ils sont belges. Bon, mais il ne les voit pas non plus, si vous voulez. C'est là qu'on voit l'importance du regard public, la façon dont vous allez regarder la société. Est-ce que vous allez mettre en avant le critère de leur origine, le critère de leur religion, le critère de leur nationalité, ou est-ce que vous allez mettre en avant leur appartenance socio-professionnelle? Eh bien, il y a une telle obsession dans la fin du Second Empire, surtout sur la question sociale, comme on dit, la crainte d'une nouvelle révolution, que les élites ne voient que cette dimension sociale. Ils ne voient pas la question de l'origine. Et 20 ans après, donc après l'irruption donc de la Troisième République, vous avez un changement complet du discours public, et ces mêmes individus, bien, on les voit comme des étrangers qui s'affrontent à des nationaux. Voyez, donc pour moi, ça, c'est extrêmement important, et donc ça montre le rôle performatif, comme on dit, le rôle que le langage public peut avoir dans la représentation de la réalité, et donc dans les modifications même des luttes politiques qui s'ensuivent. Évidemment, ce que je dis là, j'ai adapté à l'analyse historique des choses que j'avais ressenties, que j'avais vécues aussi par rapport à ce qui s'est passé en France dans les années 1980. C'est-à-dire que le discours, si vous voulez, qui dominait avant par rapport à l'immigration, c'était travailleur immigré. Hein. Donc c'était une notion de classe, c'était une notion de travail qui dominait, hein, qui était véhiculée par la gauche. Les plus anciens s'en souviennent sans doute. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 80? Vous avez un retournement du discours. C'est-à-dire que le discours sur l'immigration a été accaparé par la droite et par l'extrême droite. On a occulté complètement les références sociales pour l'ancrage social, pour construire un discours identitaire, si vous voulez. Donc, qui est le terme immigré, isolé de toute référence. Alors, ça ne veut rien dire. Personne n'est jamais que immigré, l'a emporté. Puis, il y a eu ce déplacement vers la deuxième génération, l'islam, etc., etc. Bon. Pas trop le temps d'en parler, je le dis tout de suite, mais c'est vers ça que tend mon livre. Mais dans ma réflexion, si vous voulez, voyez, c'est d'abord ça qui était premier. Je me suis dit, tiens, finalement, oui, là, c'est extrêmement important, les phénomènes de construction de discours, et il y a des enjeux là fondamentaux. Et en utilisant ces outils, je me suis rendu compte que ça marchait aussi pour analyser, voyez, les débuts de l'immigration, c'est-à-dire au moment de la Troisième République. Donc c'est une période pour moi fondatrice et cet espace public se met en place autour de trois pôles. Là, j'ai repris des choses que j'avais étudiées dans mon livre sur les intellectuels. Ces trois pôles professionnalisés, ça aussi c'est un point très important. C'est la Troisième République accompagne et en même temps elle renforce la division du travail social. C'est-à-dire que, si vous voulez, du temps de Marx ou du temps de Guizot, vous aviez ce qu'on appelait les hommes complets, c'est-à-dire des gens qui étaient à la fois philosophes, journalistes, militants politiques ou hommes politiques. Hein. À partir de la Troisième République, ça devient, sinon impossible, du moins de plus en plus difficile d'être reconnu dans chacun de ces milieux. Hein. Vous avez une séparation des milieux qui est institutionnalisée d'ailleurs par la République. Pour être désormais, pour entrer à l'université, eh bien, faut avoir passé des concours, il faut avoir fait une thèse de plusieurs centaines de pages, etc., etc. Pour être politique, il faut être professionnalisé, il faut être dans un parti, il faut faire ça à longueur de journée. Et pour être journaliste, eh bien, effectivement, de la même manière, avec les nouveaux journaux qui apparaissent à la fin du XIXe siècle, eh bien, il faut être à 100% dans ce métier. Donc vous avez une professionnalisation qui, pour moi, est un phénomène tout à fait fondamental sur le plan sociologique, et qui explique aussi la construction du nouvel espace public. Le nouvel espace public, il a des points communs avec celui qui existait avant, mais il change complètement. C'est un espace public démocratique, hein, fondé sur le pluralisme, sur l'affrontement des partis, des opinions, etc., mais aussi avec des espaces qui sont professionnalisés, donc le pôle politique, le pôle journalistique et le pôle universitaire. Et ces trois pôles, c'est ce que je montre dans le livre, vont contribuer à alimenter le discours sur l'immigration. L'immigration va être appropriée dans le champ politique et faire l'objet du clivage entre la droite et la gauche. Ça, c'est l'affaire Dreyfus. montre que l'affaire Dreyfus, elle débouche sur l'opposition entre ce que j'appelle le pôle national sécuritaire, qui est la droite, et le pôle social-humanitaire, qui est la gauche. Et cette bipolarisation, on la retrouve tout au long du XXe siècle, et je pense qu'elle s'est en partie effondrée aujourd'hui, à partir des années 80, pour des raisons que j'essaye d'expliquer. En tout cas, c'est structurant. Donc l'immigration, vous voyez, a joué un grand rôle aussi dans l'affrontement politique. Et on s'aperçoit que la gauche a réussi à gagner le pouvoir, à être hégémonique, quand elle a su lier la défense des immigrés, du droit d'asile, etc., et la lutte sociale. C'est en gros l'affaire Dreyfus, qui permet au bloc des gauches de gagner les élections. C'est bien sûr le Front populaire, qui est fondé sur le front antifasciste à partir de 1934, et qui est fondé, donc, aussi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, sur un rassemblement donc, du courant humanitaire, de défense des droits de l'homme, et puis le courant, évidemment, socialiste et communiste. Et puis, la victoire de Mitterrand en 1981 est aussi construite sur le rassemblement de ces deux éléments. Donc ça, je crois que c'est un point d'histoire qu'il est peut-être intéressant de rappeler aujourd'hui, pour montrer qu'en politique, on ne gagne jamais en allant complètement sur le terrain de l'adversaire, parce que la politique s'est fait forcément, c'est une structure où il faut une bipolarisation. Donc il faut, bien sûr, chaque génération doit réinventer son propre combat, mais en restant sur des terres qui sont ces terres traditionnelles, sinon eh bien, les grandes figures sont accaparées par l'adversaire. Là aussi, je crois que l'actualité nous l'a amplement montré. Donc il y a ce pôle politique, mais il y a aussi le pôle journalistique. L'immigration a été accaparée par les grands journaux qui se mettent en place en France à la fin du XIXe siècle. Vous avez quatre grands journaux qui obéissent aux règles du capitalisme, hein, c'est-à-dire de la loi de l'offre et de la demande, avec des techniques à l'américaine. C'est le début de ce qu'on appelle les reporters, qui font le tour des commissariats tous les soirs pour aller glaner des faits divers, hein, sur les crimes du jour, et qui remplissent cette rubrique qui devient de plus en plus importante, qu'on appelle les faits divers. Et ce que j'ai montré, c'est la fédiversisation de la vie politique française, c'est-à-dire pour intéresser le bon peuple, il faut lui présenter la politique comme un immense fait divers, avec des gentils, des méchants, des victimes, des agresseurs, etc. etc. Et donc, le discours sur l'immigration, vous voyez, on le voit se connecter à ce moment-là avec la rubrique faits divers. Et j'ai analysé un petit peu cette rubrique. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit eh bien l'Italien criminel et aussi une place de plus en plus grande qui est faite aux rixes entre ouvriers français et étrangers. Et donc les journalistes arrivent à connecter la rubrique faits divers avec la grande politique, vous voyez, de cette manière-là. Parce qu'on disait les faits divers, c'était méprisé, c'était la rubrique des chiens écrasés, comme on dit. Mais si vous prenez un fait divers et que vous dites ce fait divers, c'est fondamental pour la vie politique française, eh bien là, vous n'êtes plus dans la rubrique des chiens écrasés, vous êtes dans la grande politique. Donc on voit comme ça ces effets, il y a aussi là des exemples récents, mais on voit vraiment comment il y a des luttes avec une nouvelle génération de journalistes, dont fait partie Drumont, des gens qui étaient de milieu modeste, qui n'auraient jamais pu être journalistes avant. Avant, on disait publiciste, hein, parce qu'on n'en vivait pas de ce métier-là. Il fallait être rentier quelque part. Hein. Et désormais, eh bien, on vit. Drumont, c'est un gars qui doit vivre de sa plume. Donc il fait des piges dans le moniteur du bâtiment au début. Après, il est recruté par l'archevêché de Paris. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, il devient le porte-voix ou le porte-plume des milieux conservateurs, cléricaux, qui sont en lutte contre la République et qui vont utiliser l'antisémitisme comme fonds de commerce, et ils connectent ça avec donc une forme de xénophobie qui est diffusée dans un langage très populaire. Donc le succès de Drumont, son livre « La France juive », un pavé de 1200 pages complètement ahurissant, mais enfin, du point de vue, enfin je veux dire odieux évidemment, mais aussi ahurissant du point de vue de l'argumentation, c'est complètement hystérique, c'est stupide, bien ce livre-là, ça a été le premier best-seller des essais politiques de la Troisième République, quasiment. Il en a vendu 100 000 exemplaires, alors qu'au départ, il l'a diffusé à compte d'auteur. Hein. Et l'ouvrage a failli être pilonné au bout d'une semaine, et finalement, tous les grands journaux républicains en rendront compte. C'est le livre qui aura suscité le plus de comptes rendus de la part des journaux, je dis bien républicains, comme Le Temps, par exemple, qui était l'équivalent du Monde de cette époque-là. Donc là, il y a vraiment un mystère, si vous voulez, c'est intéressant de l'analyser, et si on analyse avec les catégories que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de réception, eh bien, on comprend, enfin, comment ce livre-là a pu séduire les journalistes à une époque où, évidemment, il n'y avait pas la mémoire collective de la Shoah, etc. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait à peu près entre 50 000 et peut-être 80 000 juifs en France. C'est une toute petite partie de la population. La plupart des gens ne se sentaient aucune solidarité avec cette fraction de la population. Donc, vous voyez, les préjugés pouvaient se donner libre cours. Et Drumont apparaissait comme quelqu'un qui, à la fois, était un lettré, apparaissait comme un peu savant, parce qu'il met de l'anthropologie là-dedans, évidemment. Il utilise des travaux de certains experts. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il y a une légitimité qui est construite et diffusée par des gens qui, eux-mêmes, n'étaient pas antisémites. Le Temps, par exemple, ce journal a pris parti pour Dreyfus après. Hein. Vous voyez, ça complexifie un peu l'analyse qu'on a souvent aujourd'hui, où on classe les gens dans des camps et on les voit s'affronter les uns les autres. C'est des enjeux aussi de légitimité et des constructions d'hégémonie au sein de l'espace public. Donc j'ai analysé aussi le troisième pôle, qui est le pôle des universitaires, c'est-à-dire propre milieu, si vous voulez, en montrant que, eh bien, à partir de la Troisième République, on voit naître aussi une catégorie nouvelle qui est celle des experts. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un expert? Eh bien, c'est un universitaire, la plupart du temps, ou un chercheur, qui va utiliser son savoir pour répondre à des questions qu'il n'a pas lui-même posées, mais qui ont été posées par le pouvoir, par les hommes politiques. Donc, à partir de ce moment-là, on voit apparaître, par exemple, avec le développement de l'antisémitisme, vous avez un nouveau problème qui est posé dans l'espace public, c'est le problème juif. Hein. Donc, même ceux qui ne sont pas antisémites disent « on ne peut pas nier que les juifs posent problème pour telle ou telle raison, parce qu'ils ne sont jamais assimilés, parce que ceci, cela ». Le fait même qu'ils soient victimes de persécutions en Roumanie ou en Russie, c'est bien la preuve que ces gens-là posent problème. Vous voyez comment on peut retourner les choses. Et vous avez beaucoup de gens donc, qui ne sont pas eux-mêmes finalement tellement concernés, mais ils disent, ben oui, il y a un vrai problème. Ils reprennent, vous voyez, la façon dont cette question a été catégorisée dans l'espace public et ils vont apporter leur expertise en disant, ben voilà les arguments qui sont pour, qui sont contre, etc. Et ça, je pense que c'est à partir de ce moment-là, on met le doigt dans un engrenage qui fait le jeu, finalement, des xénophobes, des racistes, des antisémites, etc. Parce que l'histoire le montre. Après, dans l'entre-deux-guerres, on voit des gens comme Charles Maurras disant, voilà, c'est un fait. Il dit, vous pouvez être pour ou contre les juifs, vous ne pouvez pas nier qu'ils posent problème. Donc à partir du moment, ça c'est une des tendances que je montre dans le livre, parce que ça se reproduit aujourd'hui, par rapport à l'immigration musulmane, par rapport à l'islam, etc. C'est le même genre de procédure ou processus. À partir du moment où vous montrez du doigt une catégorie de personnes et que vous dites « ces gens-là posent problème », vous êtes déjà à l'intérieur, vous voyez, d'une stigmatisation d'une catégorie de personnes. Parce que c'est perçu dans l'opinion comme quelque chose de négatif, si vous voulez. Et vous allez faire toutes les analyses savantes que vous voudrez, vous n'arriverez pas à corriger les préjugés des gens. Moi, c'est aussi mon expérience, je dirais, après 20 ans de travail comme ça, pour répandre, j'allais dire, la bonne parole, le catéchisme républicain, comme on dit, bien, c'est de voir les limites de la rationalité quand vous êtes face à des gens qui vont s'appuyer sur les évidences du sens commun, en prenant appui sur le dernier fait divers, en prenant appui sur un crime ou bien sur un acte terroriste, parce que le terrorisme, si vous voulez... Ce n'est pas aux Lyonnais que j'apprendrai ça. Ce n'est pas un phénomène nouveau, puisque le président de la République française, Sadi Carnot, a été assassiné en 1894 à Lyon par un anarchiste italien, hein, Caserio. Donc, il y a eu une chasse à l'italien dans cette ville, bon, parmi d'autres. Hein, mais, donc, je veux dire, tout ça, pour nous, c'est vraiment une récurrence de l'histoire. Dans les années 30, vous avez eu aussi, alors là, pour le coup, un paroxysme dans à la fois la violence politique, fasciste contre antifasciste, terroriste, antiterroriste, donc une exacerbation aussi de la xénophobie, du racisme et de l'antisémitisme. Donc, à partir de ce moment-là, dans l'opinion publique, vous avez des catégories qui sont constituées comme négatives par rapport à l'opinion. Donc voilà, là j'ai déjà parlé extrêmement longtemps, j'ai mis en place, si vous voulez, un petit peu les cadres comme ça de la Troisième République. Et je pense que cette matrice continue aujourd'hui encore à informer notre vie politique et qu'elle est tout à fait essentielle pour éclairer le contexte actuel par rapport à l'immigration. Mais simplement, ce que j'ai montré dans mon dernier chapitre, que j'ai intitulé « L'ethnicisation de discours sur l'immigration », c'est les changements qui se sont produits dans les années 80, Et là, j'ai dit aussi que justement, quand j'ai écrit Le Creuset français, je l'ai écrit au milieu des années 80, je n'avais pas le recul suffisant pour comprendre ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire que pour moi, je l'analysais comme la répétition de ce qui avait déjà eu lieu dans les précédents cycles. Parce qu'en France, vous avez toujours eu donc des phases d'afflux considérable de l'immigration dans les périodes de prospérité où on avait besoin des immigrés. Et puis après, stagnation en raison de la crise et développement de la xénophobie, du racisme, etc. Ça, c'était ces cycles-là, on les voit apparaître à la fin 19e, dans l'entre-deux-guerres, et puis entre les années, je dirais, 60 et 70. Hein, donc là, il y a vraiment un effet répétitif. Mais, évidemment, on ne peut pas dire aujourd'hui, 20 ans après, qu'on est toujours dans ce cycle répétitif. Parce qu'on est installé aujourd'hui dans cette crise depuis 25 ans, puisque l'arrêt globalement de l'immigration, c'est le milieu des années 70, puis aujourd'hui, on est en 2007, donc ça fait même plus de 30 ans. Donc il y a une nouvelle logique qui s'est mise en place, qui est d'ailleurs, qui est l'une des raisons qui explique les problèmes que peuvent rencontrer les gens qui sont issus de l'immigration, parce qu'avant, il y avait toujours un effet où une nouvelle immigration permettait aux précédents de monter un peu dans la hiérarchie sociale. Donc là, aujourd'hui, on a cet effet sur le plan économique et social, mais aussi on a des effets de modification des constructions, des représentations liées à l'effondrement, j'allais dire, du pôle du mouvement ouvrier, en gros. C'est-à-dire que c'était le mouvement ouvrier qui, depuis la fin du XIXe siècle, permettait que dans l'espace public, il y ait une visibilité en termes sociaux. Hein, c'est-à-dire, on disait travailleurs immigrés, comme je vous l'ai dit. Ou avant, par exemple, quand le Parti communiste a organisé les immigrés dans les années 30, il a créé des sections qu'on appelait la MOI, main-d'œuvre immigrée, qui ont joué un grand rôle dans la résistance. Il y avait toujours l'association classe sociale, si vous voulez, et immigration. Et cette association a été cassée parce que les organisations du mouvement ouvrier sont littéralement effondrées, on a vu encore là les dernières élections, du fait même que les bastions du mouvement ouvrier, les grandes usines ont fermé, les grandes régions ouvrières sont sinistrées, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de force sociale. Et en démocratie, tout est rapport de force. Rien, personne ne vous concède rien, je veux dire, c'est des rapports de force, il faut bien le savoir. Donc à partir du moment où vous n'avez plus une force sociale qui est capable d'imposer un discours social public, eh bien évidemment, c'est d'autres types de représentations qui s'imposent, mais ce sont des représentations plutôt aujourd'hui tournées vers soit le national, soit l'origine. Donc vous avez une ethnicisation du discours sur l'immigration. Alors ça, moi je l'ai analysé. Maintenant, de dire est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, en tant qu'historien, je ne me prononcerai pas, parce que aussi les individus s'approprient les catégories qui existent dans l'espace public de leur époque et vont construire des luttes à partir de là. Donc c'est un autre problème dont on pourra débattre si vous voulez. Mais je crois qu'il est important de mettre en lumière les nouvelles reconfigurations de ce discours public. Et l'un des facteurs essentiels dans la reconfiguration du discours public, ça a été aussi le triomphe de l'information spectacle, c'est-à-dire d'une information qui est véhiculée par la télévision, notamment depuis le début des années 80, ça a été la libération des ondes, avec les radios libres, avec la privatisation des chaînes télé. Donc de plus en plus, ce que j'avais déjà dit tout à l'heure à propos de la Troisième République, mais qui valait pour la presse, aujourd'hui vaut pour l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'une information politique n'est diffusée que si elle fait spectacle. Si on peut la mettre en valeur, en reportage, avec des jeunes qui vont brûler des voitures ou qui vont attaquer de la police, etc., ou une jeune fille avec un voile, ou vous voyez des choses de ce type-là. Donc vous avez ces conditions matérielles qu'on oublie souvent d'évoquer. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup dans les gens qui travaillent dans surtout la télévision, qui fait quand même, je crois, j'avais lu un livre qui sur tout ça, qui disait que 70% des gens aujourd'hui en France se déterminent politiquement à partir du 20h, comme on dit. Hein. Bon, et le 20h lui-même, ce qui est raconté au 20h est tributaire, vous le savez, pour une bonne partie des publicités qu'il y a après. Hein, parce que c'est décisif, puisque c'est là que l'audience est le maximum. Donc les annonceurs contribuent de manière décisive à l'équilibre, au bénéfice que font les chaînes. Vous voyez comment, à partir de toutes ces contraintes-là, qu'est-ce qui reste comme espace de liberté au journaliste qui va faire son reportage? Moi, je l'ai vu depuis 20 ans, parce que quand vous leur dites aux journalistes, mais arrêtez de fantasmer sur le communautarisme, bon, ben, vous pouvez les convaincre par A plus B, mais ils ne changent rien ce qu'ils ont décidé de faire. Parce que si vous avez dédramatisé les choses, ça, c'est contraire à, voyez, à leurs intérêts. Alors je ne dis pas, moi je ne diabolise pas, moi j'ai beaucoup de respect, j'ai même commencé moi par faire du journalisme quand je faisais des émissions de radio à Lorraine Cœur d'Acier en Lorraine. Il faut jamais, évidemment, chaque milieu social est un enjeu de lutte. Vous avez des journalistes qui se battent aujourd'hui pour essayer de faire autrement, etc. Et c'est un enjeu de lutte qui, où il y a un rapport de force qui est inégal, bien évidemment. Donc, tout ça contribue, vous voyez, à construire des représentations qui stigmatisent aujourd'hui à nouveau l'immigration. Mais à la différence de ce qui se faisait dans le passé, la stigmatisation s'est déplacée de la première à la deuxième génération. Hein? Parce qu'avant, jamais, la deuxième génération, ça n'existait pas dans le discours sur l'immigration avant les années 70, hein, en gros. C'était toujours la première génération, c'était les étrangers. Hein? Ou alors vous aviez polémiques religieuses ou l'antisémitisme, etc. Mais le discours stigmatisant la deuxième génération, il n'a été inventé que depuis 20 ans ou 25 ans. Parce que c'est un reflet des mutations de nos sociétés. C'est un reflet déjà de la construction d'une nouvelle classe d'âge, on pourrait dire les 15-25. Ça n'existait pas avant, parce qu'avant, la plupart des gens dans les classes populaires, bon, bah, à 14 ans, ils allaient travailler à l'usine, bon, bah, ils passaient du monde de l'enfance au monde de l'âge adulte. Bon, désormais, vous avez une classe des 15-25, c'est la cible privilégiée des annonceurs, de la société de consommation, puis en même temps, c'est une clientèle fondamentale de l'école, qui est un autre enjeu décisif. Donc on a fabriqué comme ça aussi cette catégorie. Vous voyez, donc, quand on parle de l'immigration, en fait, on n'a jamais affaire que à l'immigration. Il faut croiser ça avec toute une série d'autres problèmes qui se posent dans d'autres secteurs de la société. Toujours est-il que, voilà, on est arrivé aujourd'hui à cette situation où la stigmatisation, les formes d'humiliation sont concentrées sur ces jeunes des milieux populaires qui sont issus de l'immigration mais qui la plupart du temps sont français et qu'on continue à catégoriser ou à enfermer dans cette catégorie ou dans cette représentation négative de l'immigration. Alors, l'immigration en France a toujours été perçue comme une menace. Si vous comparez avec les États-Unis, qui est un autre grand pays d'immigration, eh bien, sauf peut-être là, dans ces dernières années, ça change peut-être, mais classiquement aux États-Unis, l'immigration était perçue comme une chance, comme quelque chose de positif. En France, constamment comme une menace, constamment comme un problème. Et à partir de là, donc, on charrie toute une série de représentations négatives qui expliquent la dernière étude de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est parue au début de l'année. Plus de 50% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Alors que les recensements prouvent que la population étrangère a diminué depuis le dernier recensement. Donc, si vous voulez, voyez comment il y a un décalage entre la représentation et la réalité. Alors, c'est pour ça, si vous voulez, je terminerai là-dessus, que lorsqu'il a été question dans la campagne électorale, on a vu ressurgir ce thème qui était un thème du Front National auparavant, associant immigration à identité nationale. Eh bien, nous-mêmes, nous qui étions membres de la Cité nationale d'histoire d'immigration, qui avions accepté d'entrer dans cette structure parce que l'objectif officiel de cette structure, c'était de changer le regard sur l'immigration, ça l'est toujours d'ailleurs, eh bien, nous n'avons pas pu accepter, si vous voulez, cet amalgame entre immigration et identité nationale. Donc, on a voulu marquer notre opposition de manière symbolique en démissionnant de la Cité. Alors maintenant, vous avez ce ministère qui est créé, donc qui, non seulement, si vous voulez, marque un degré supplémentaire, parce que avant du temps, c'était l'extrême droite qui avait constamment fait cet amalgame immigration-identité nationale, mais vous vouliez dire que c'était un discours uniquement politique, partisan. Aujourd'hui, c'est un discours étatique. Vous avez, dans une intitulée officielle, pour la première fois dans l'histoire de la République, côte à côte, ces termes, identité nationale et immigration, qui ont toujours charrié, véhiculé des représentations négatives. C'est pourquoi ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que sur les 12 membres du Conseil scientifique de la Cité de l'immigration, les 12 étaient unanimes à condamner cette association d'idées. Les 12, nous avons publié un communiqué le précisant. Il n'y a aucune divergence entre nous là-dessus. Mais la divergence, elle a été que sur les 12, il y en a 8 qui ont démissionné, 4 qui ont estimé que la démission n'était pas la meilleure solution parce que ça affaiblissait cette structure qui est la cité de l'immigration. Mais il faut insister, donc il y a une unanimité de la part des chercheurs qui sont quand même les plus reconnus dans ce domaine-là pour condamner cette association de termes. Bon, alors maintenant, nous avons vu le ministre, nous sommes considérés comme de mauvais citoyens parce que nous ne respectons pas, soi-disant, le suffrage universel. L'argument paraît quand même assez incroyable puisque, vous savez qu'en 1932, le parti nazi a remporté le plus grand nombre de suffrages. Hein. Les citoyens allemands se sont prononcés pour Hitler. Est-ce que ça va, donc du coup, on va réviser l'histoire et dire que les gens comme Brecht et les autres intellectuels allemands qui ont critiqué le nazisme avaient tort? Bon, vous voyez, la perversion que peut entraîner cette manière de concevoir la démocratie. La démocratie nécessite qu'il y ait des gens qui interviennent dans l'espace public au nom de leur travail, au nom de leurs compétences propres, lorsqu'ils estiment qu'il y a des graves manquements par rapport aux idéaux, aux pratiques traditionnelles des sociétés donc démocratiques et donc pour le coup la République française. Voilà, bon, je m'arrête en m'excusant d'avoir été un peu plus long que ce que j'avais prévu. Merci.
Bien, je prends les questions qui ne manqueront pas d'arriver.
Vous avez dit tout à l'heure que, selon la France, l'immigration est constamment une menace. Qu'est-ce que vous pensez de l'exemple de l'immigration polonaise dans le Nord-Pas-de-Calais? Moi, à mon avis, enfin, je suis peut-être le seul, mais il me semble que c'est une réussite. Et puis, vous avez donné plusieurs interviews à des médias. Dans un quotidien lyonnais, vous avez déclaré « Il faut que l'immigration échappe à la politique ». Est-ce que vous pensez qu'on en prend le chemin?
Je crois que là, vous avez déjà eu la réponse. Hein, deuxième question. On prend plusieurs questions.
Oui, j'aurais aimé savoir comment vous estimez le poids de la colonisation, de l'histoire de la colonisation sur la représentation de l'immigré, car parler d'un immigré italien et portugais et parler d'un immigré algérien, ça me semble tout différent.
Bonsoir, monsieur. J'aimerais poser une question aux Français. Qu'est-ce qui vaut réellement? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que les Français vaut? Parce que j'ai remarqué depuis que la population d'Afrique subsaharienne commence à venir nombreuse en France, les lois commencent à être durcies. Et puis il faut savoir aussi que l'Afrique a été le deuxième continent d'expatriation française pendant de nombreuses années. Je suis Afrique anglophone. L'Afrique anglophone est majoritaire sur le continent, sur le plan spatial et population, mais on ne le voit pas ici. Parce que l'immigration des Africains se fait à l'intérieur de leur continent. L'Afrique aussi est un autre continent d'immigration. Les Libanais, la population indienne. Les Français ont des entreprises sur le continent. Excusez-moi, ça peut blesser certaines personnes. Ils ont des bases militaires. Ils ont une très forte présence. Ils sont nombreux dans les pays anglophones, d'Afrique aussi. Soit vous ne voulez plus des Africains, je le dis clairement.
Oui, parce que là, ça va faire beaucoup. Hein.
Oui, moi j'avais une question par rapport à ce que vous disiez, l'esquisse rapide là, sur les replacer les questions d'immigration dans le contexte socio-historique, etc. Mais de ce point de vue-là, vous l'avez évoqué rapidement sur ce qui serait la particularité de la France par rapport à d'autres pays d'immigration comme les États-Unis, d'avoir toujours eu une appréciation négative sur l'immigration. Moi, ce qui m'interroge, c'est, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, sur ce qui se passe au niveau européen, par exemple, parce que je pense qu'il y a des changements fondamentaux qui ont eu lieu il y a depuis 10 ou 15 ans en Europe, tout le monde dit l'Europe est devenue premier continent d'immigration devant l'Amérique du Nord. Je pense que dans le cadre, on pourrait se rassurer en se disant le phénomène général de hausse de la xénophobie, de montée des extrêmes droites, etc. en Europe, ne serait le produit que de ce passager de ça. C'est-à-dire que des pays comme l'Espagne, comme l'Italie deviennent, en un laps de temps très court, des terres d'immigration, etc. Bon, mais l'exemple français vient complètement démonter cette idée-là, quoi. C'est-à-dire que, et moi, je trouve que ce serait intéressant, voilà, par rapport à d'autres pays dans lesquels la construction de l'espace public, de l'espace national s'est faite de façon différente. Parce que là, on a affaire à un phénomène général de hausse de xénophobie, de réactions similaires, avec des pays qui ont des histoires complètement différentes en termes de construction de l'identité nationale, de l'espace national. Alors voilà, comment comprendre ça à l'échelle européenne aujourd'hui?
Oui, donc là, ça fait vraiment énormément de questions. Je vais essayer d'y répondre de façon rapide. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Alors, l'exemple de l'immigration polonaise. Alors là, on sent déjà dans les deux premières questions une thématique que je combats, je vous le dis franchement, quitte à être impopulaire. c'est l'opposition entre une immigration européenne réussie et une immigration postcoloniale non réussie. C'est pour moi la matrice des préjugés sur le sujet qui a été mise en circulation par les conservateurs et les experts du ministère de la Population, ce que je montre dans mon livre, à partir des années 60, et qui a été politisée de façon contradictoire. C'est-à-dire que ce discours, vous pouvez le trouver à droite, mais vous pouvez le trouver aussi à gauche, voire à l'extrême gauche. J'ai analysé, par exemple, l'introduction du livre qui s'appelle « La fracture coloniale », qui sert de référence dans certains groupes d'extrême-gauche. En fait, ils disent la même chose que les gens de droite, voire d'extrême-droite, mais ils inversent les signes. C'est-à-dire, ce sur quoi ils sont d'accord, c'est qu'en gros, ça a bien marché, l'intégration, pour les Européens, mais que ça ne marche pas pour les autres. Alors, eux, ils disent c'est parce que tous les Français sont racistes, alors que la droite dit non, c'est parce qu'ils ne sont pas civilisés. Vous voyez, voilà. Mais globalement, c'est cette structure. Et pour moi, le sens commun se construit en amont du politique. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. En amont du politique, ça veut dire que le pouvoir... C'est pour ça que je reviens un peu aussi à la position des intellectuels spécifiques. Pour moi, le pouvoir dans une société démocratique, ce n'est pas d'imposer ses réponses, c'est d'imposer ses questions. Vous voyez ? D'imposer ses problèmes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez ? Donc, la communauté de vue entre des gens qui sont en apparence des adversaires radicaux, ça va être de dire, oui, les nouveaux venus posent des problèmes spécifiques. Vous voyez ? Eh bien, je récuse, moi, cette analyse. Je fais ce que Foucault nous demandait de faire, c'est-à-dire une problématisation de la façon dont la question est posée dans l'espace public. Alors, allons plus dans le détail. L'idée qu'une immigration est réussie, qu'est-ce que ça veut dire ? De quel point de vue on va se placer ? Est-ce qu'on Ça, c'est un débat d'experts. Moi, j'ai travaillé dans ma thèse sur l'histoire de l'immigration en Lorraine, et notamment sur les mineurs de fer. Hein ? Les mineurs de fer en Lorraine, lorsque la France était le premier producteur mondial de fer, ou l'un des premiers, eh bien, la production du fer, elle se faisait à 100% par des immigrés. Hein ? Au fond, vous n'aviez pratiquement que des immigrés. Pour trouver des Français, il fallait aller au niveau des porions, des contremaîtres. Eh bien, à l'époque, ils ne pouvaient pas se syndiquer, ils ne pouvaient pas manifester, a fortiori, ils ne pouvaient pas participer à un parti politique, etc., parce qu'ils étaient systématiquement expulsés. C'était une sorte d'apartheid. Et là, je crois que le mot, à l'époque, était fondé. Et à cette même époque, eh bien, la France a, parmi les taux d'accidents mortels du travail dans les mines de fer, parmi les plus forts du monde. Ils sont 2 à 3 fois plus forts que dans le charbon, mais il n'y a pas eu un Zola. Personne n'en a jamais parlé. C'était une sorte de ghetto du travail dans le nord de la Lorraine, complètement invisible, etc., etc. Et parmi ces mineurs de fer, il y avait aussi des Polonais. Hein. Les Polonais n'étaient pas que dans le charbon. Eh bien, si vous allez interroger des familles, combien il y en a en Lorraine qui ont eu dans leur famille des gens qui sont morts au travail ou qui ont été mutilés à vie sans avoir le plus souvent de rente ou avec des formes de ségrégation dans la restitution des rentes inouïes. Ils vont dire, eux, que leur immigration était réussie. Vous voyez un peu le scandale qui a utilisé ce terme quand vous avez affaire à des gens qui, dans leur destin, ont été confrontés à des choses comme ça. Un autre exemple que je vais vous donner. Quand vous prenez les chiffres statistiques, vous constatez qu'en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, la majorité des gens qui sont venus un jour en France ne sont pas restés. La majorité des immigrants ne sont pas restés.
la majorité sont repartis, ils sont allés ailleurs. Est-ce que c'est réussi? C'est bien la première critère qu'on peut donner pour dire qu'ils ne se sont pas intégrés, c'est le fait qu'ils soient repartis. Bon. Donc, vous voyez comment ce débat est piégé. Si on parle de réussite, le mot réussite, c'est un jugement de valeur. Et je vous ai dit justement au début que ça, c'est mémoriel. C'est les communautés qui vont gérer ou les hommes politiques qui vont dire réussi par réussi. Nous, dans la recherche, les termes que nous essayons d'utiliser ne doivent pas être des jugements de valeur. Hein? C'est extrêmement important parce qu'autrement, on se fait piéger. On va entrer dans des logiques où, selon les personnes auxquelles on aura affaire, évidemment... J'aurais pu aussi vous parler, par exemple, d'Aurélie Filippetti, par exemple, hein, que son nom vous dit peut-être quelque chose aujourd'hui. Elle va peut-être être élue bientôt députée. Elle a été dans le Brain Trust de la campagne de Ségolène Royal. Elle est issue, elle aussi, d'un milieu d'immigration italienne, une brillante normalienne, etc. Bon, vous avez énormément, parmi cette immigration italienne, polonaise, des enfants, des petits-enfants qui ont monté dans la hiérarchie sociale. Mais si vous lisez la thèse de Philippe Rigiel, qui a analysé, lui, statistiquement, la mobilité sociale au sein de cette immigration, notamment polonaise, dans la région du centre de la France, il montre bien que c'est très contrasté selon les familles. Hein, qu'il distingue des micro-générations à l'intérieur de ces Polonais, selon l'âge qu'ils avaient quand ils sont arrivés en France, selon le fait que leurs parents étaient analphabètes ou pas, etc., etc. Donc on peut dire qu'effectivement, il y a une partie de ces immigrations qui a bénéficié de la bonne conjoncture économique qu'on appelle les 30 glorieuses. Là, il y a eu un moment où, effectivement, on voit statistiquement, je dis bien, une mobilité sociale dont beaucoup de gens, même pas issus de l'immigration, ont profité, des enfants de paysans qui ont... Nous-mêmes, souvent, nous sommes issus un petit peu de cette conjoncture-là. Alors là, aujourd'hui, évidemment, la conjoncture, pour les gens qui sont venus après, elle s'est refermée. Et là, il y a effectivement un drame, un malheur social qui est très important. Mais c'est surtout ça qui compte, plus que le fait d'immigration européenne ou non européenne, si vous voulez. Cette catégorie d'Européens n'avait pas de sens en France dans l'entre-deux-guerres. Parce que l'une des formes de xénophobie la plus forte, c'était contre les Juifs. Hein? Et l'antisémitisme, eh bien évidemment, on considérait que les Juifs n'étaient pas intégrables parce que la religion juive était inconciliable avec la religion chrétienne, etc. Donc, ces formes de catégorisation européen-non-européen, on ne les voit pas, elles ne sont pas encore opérationnelles, sauf dans de petits cercles. Les Arméniens étaient considérés comme des orientaux, vous avez toute la stigmatisation des Levantins, etc. Bon, je passe. Et effectivement, on voit les changements se produire à partir des années 60, au moment où se construit l'Union européenne. Donc progressivement, quand vous avez eu la construction de l'Union européenne, vous avez eu la construction d'une citoyenneté européenne, et aujourd'hui, il est certain que vous avez des discriminations entre les étrangers, les immigrés, si vous voulez, qui viennent d'autres pays de l'Europe et ceux qui viennent de pays non européens. Là, on peut le dire. On peut aussi dire que c'est un résultat peut-être de la colonisation. Ça, c'est vraisemblable, puisque la colonisation a contribué à tisser des liens, comme monsieur le rappelait tout à l'heure, dans les deux sens, parce qu'il ne faut jamais oublier effectivement les logiques d'émigration. Hein, il y a un lien étroit entre les deux. Vous avez eu des gens en France qui ont profité de la colonisation pour s'installer en Algérie, pour s'installer en Afrique, dans les autres pays d'Afrique, etc., et donc qui ont bénéficié de cette situation. Donc il y a des rapports la plus complexes qui dessinent une particularité. Donc il est bien évident que... Mais on pourrait dire que chaque immigration est particulière, voyez. Donc voilà, moi, ce contre quoi je m'insurge, c'est une construction stéréotypée, immigration postcoloniale qui alimente le discours de victime, si vous voulez. Donc ça, il faut déplorer les victimes. Je suis le premier à le faire et par ailleurs à militer dans des tas, contre tout cela. Mais en tant que chercheur, il faut faire extrêmement attention et observer les choses telles qu'elles sont. Vous avez le recensement, par exemple, de 1999 qui montre la position sociale des Français issus de l'immigration, disons, algérienne et de l'immigration portugaise. Eh bien, quand vous comparez, vous constatez que dans les classes, disons, dans les professions intellectuels et cadres supérieurs, vous avez à peu près 3 fois plus de Français issus de l'immigration algérienne ou marocaine que de Français issus de l'immigration portugaise. Donc on doit aussi tenir compte de ce phénomène-là. La colonisation a charrié des choses contradictoires. Donc le problème spécifique que pose aussi aujourd'hui l'immigration issue de l'ancien empire colonial, c'est qu'elle est complètement éclatée aux deux extrêmes, de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire c'est là que vous avez le plus de jeunes en perdition, donc qui cumulent là effectivement toutes les injustices et les inégalités sociales, victimes de la stigmatisation, du racisme, de la police dans les quartiers, du chômage, etc. Mais vous avez aussi, en même temps, issus de ces immigrations, des gens qui ont eu une mobilité sociale ascendante et qui constituent aujourd'hui une fraction des élites intellectuelles et des classes moyennes. Il ne faut pas occulter cette dimension-là, sinon on ne comprend pas les mécanismes. Voilà ce que nous, on peut dire en tant que chercheurs là-dessus. Alors, donc moi, je ne dirais pas que l'immigration polonaise a été une réussite, parce que ce mot « réussite » ne me convient pas, mais on pourrait analyser les phénomènes sociologiquement qui se posent. Mais je vous dirais simplement pour les Polonais une petite enquête que je cite dans mon livre, c'est qu'en 1962, vous avez une des premières enquêtes sociologiques faites par Raymond Boudon, qui a été un des grands sociologues de ces dernières décennies, et il a travaillé à Austricourt. Et à Austricourt, donc en 1962, vous voyez, donc quand même 40 ans après l'arrivée des premiers Polonais, la plupart de ces Polonais, leurs enfants, leurs petits-enfants étaient français, mais il n'y avait encore aucun d'eux qui était au conseil municipal. Hein. Et alors il a enquêté, il trouvait ça bizarre, et il a demandé, ben, comment ça se fait, vous êtes une minorité, comme on dit aujourd'hui, peut-être pas trop visible, je n'en sais rien, ou visible, ce qu'on dit aujourd'hui, ça me fait souvent rire, minorité visible. Donc il y a les minorités visibles et les minorités invisibles. Bon. Donc les Polonais, quand il interrogeait les Polonais, disant, ben, c'est parce que, enfin, quand je dis les Polonais, les Français d'origine polonaise, ces enfants issus d'immigration polonaise disaient, on voudrait bien être dans le conseil municipal, mais les Français ne nous aiment pas. Donc ils continuaient, vous voyez, à la troisième génération, à catégoriser les choses, vous voyez, alors que les gens croient que ça n'a jamais existé pour les Italiens polonais. Et à l'inverse, les gens du conseil municipal disaient, eux, pour justifier de cette discrimination, si on veut, oh ben les Polonais ne s'intéressent pas à la politique. C'était le vieux stigmate du Polonais qui ne fait pas de politique. Bon, je vous donne des éléments pour vous montrer quand même ce que peut apporter l'histoire. Et moi, je crois beaucoup à la dimension civique visant à désingulariser les expériences. C'est-à-dire quand on peut dire aux gens, notamment aux jeunes qui souffrent aujourd'hui et qui ont le sentiment de ne pas être comme les autres, etc., c'est une dimension forte du racisme. Évidemment, il y a des problèmes spécifiques aujourd'hui, douloureux, qui sont liés à la crise de la société française, mais que l'expérience qu'ils vivent a pu être, au moins partiellement, vécue déjà par des gens avant eux. Ben, c'est important du point de vue de la solidarité, de la construction aussi d'une forme de solidarité collective. Et inversement, dire à tous ces Français, à un tiers des gens qui vivent en France aujourd'hui sont issus de l'immigration, pour peu qu'on monte jusqu'aux arrière-grands-parents, bien vous qui avez vécu, peut-être pas vous directement, mais vos parents, hein, je ne nomme personne, vous voyez ce que je veux dire, vos grands-parents, etc., ce genre de choses, c'est inadmissible, particulièrement vous puissiez reproduire des discours humiliants ou stigmatisants à l'égard des immigrants d'aujourd'hui. Voilà, donc la question, maintenant j'en viens à la question, que veulent les Français? Écoutez, moi je ne suis pas un représentant du peuple français, je n'ai jamais été élu à la moindre élection, donc je ne pourrais pas parler au nom du peuple français. Je n'en sais rien, je crois que les Français, c'est difficile à dire ce que c'est déjà, que c'est contradictoire et que ce sont des luttes que nous devons mener. Moi, je me suis toujours insurgé contre l'idée qu'il y aurait une tradition républicaine. Je dis toujours, il y a des traditions républicaines. Et constamment, ces traditions républicaines, elles se sont affrontées. En gros, vous avez une tradition, ce que j'appelle nationale sécuritaire, conservatrice, qui aura tendance à stigmatiser les derniers venus, etc. Et puis une tradition plus ouverte, humanitaire, qui prend au moins partiellement en compte le sort des immigrants, etc. Ben encore aujourd'hui, on est dans ce contexte-là, sauf que les rapports de force évoluent selon les périodes, et vous pouvez dire que tous les acquis de la France des droits de l'homme, eh bien, on les a obtenus dans les périodes, justement, où le rapport de force était plus favorable au courant humaniste ou humanitaire, alors que dans les moments, eh bien, à l'inverse, les mesures sécuritaires ont été adoptées plutôt là, dans les périodes où le centre de gravité évoluait plutôt d'autres sens. Donc voilà, donc c'est pour dire que c'est un enjeu, mais qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Mais en même temps, il est vrai que ça correspond à la question qui était posée tout à l'heure aussi sur la question de l'Europe. Eh bien, il y a une dimension européenne à cette évolution un peu conservatrice et de repli sur du repli identitaire. On le constate, il n'y a pas qu'en France. Et donc, c'est un problème qu'il faut affronter peut-être aussi au niveau européen. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisamment fait aujourd'hui. Mais là, c'est aussi le déficit de la politique et de la structuration des associations, des syndicats, etc. La question du continent européen, en fait, par rapport à ce que vous disiez, je voudrais préciser que au cours des années 1990, l'immigration a été relativement limitée en Europe, parce qu'il y avait encore ce thème de l'immigration zéro, en gros, qui dominait, même s'il était déjà bien écorné dans certains pays, alors que aux États-Unis, l'immigration a acquis à ce moment-là des niveaux records. On considère que depuis le début du XXe siècle, c'est dans les années 1990 que le taux d'immigration a été le plus fort aux États-Unis. Donc vous voyez, vous avez eu deux politiques complètement opposées, c'est-à-dire la politique américaine, en gros, d'ouverture des frontières, d'accueil massif des immigrants, et une politique européenne qui était une politique de fermeture des frontières. Ce mouvement s'est inversé à partir de 2000-2001, je crois, où effectivement, à partir de ce moment-là, l'Europe a commencé à accueillir plus d'immigrants que les États-Unis et le Canada réunis. Donc là, il y a vraiment un basculement. Mais en Europe, ça ne s'est pas fait ouvertement. Ça s'est fait en maintenant une espèce de discours sur la fermeture des frontières, etc., etc. Donc là, il y a tout un débat, je n'insisterai pas parce que je ne suis pas dans les cercles des experts, mais je sais qu'il y a tout un débat au niveau de l'Union européenne pour savoir si finalement il ne faudrait pas adopter la logique américaine, puisqu'ils ont maintenu les frontières ouvertes et la croissance a été plus forte qu'en Europe et ils ont moins de chômage. Mais évidemment, tout ça s'est fait au nom d'un libéralisme qui s'est accompagné par une destruction aussi des droits sociaux, du peu de droits sociaux qu'il pouvait y avoir, etc. Et donc de constitution de poches de pauvreté à l'intérieur des États-Unis. Donc en Europe, le problème se pose effectivement par une connexion entre une maîtrise des frontières liée à un maintien des droits sociaux. Voilà comment les choses se positionnent. Je ne dis pas que moi-même je les reprendrai comme ça, mais il y a ce débat qui est posé. Donc il faut aussi être vigilant sur le fait que les gens qui vont tenir un discours sur l'ouverture des frontières peuvent être des capitalistes libéraux, parce que j'ai montré dans le livre qu'avant la guerre de 14, ceux qui étaient les plus favorables à une immigration libre, c'était le grand patronat, parce qu'ils utilisaient cette manœuvre pour diviser les syndicats, pour avoir une main-d'œuvre moins chère, etc., etc. Donc il y a toujours aussi cette dimension qui est présente. Alors le fait qu'il y ait des tendances xénophobes qui se développent dans tous les pays d'Europe, je crois que parce qu'on est aujourd'hui, que les traditions historiques des uns et des autres sont relativisées par la construction d'un système médiatique qui est relativement homogène dans les pays, et qui, bon là je dis ça sans avoir beaucoup travaillé là-dessus, mais qui transcende des particularités nationales. On le voit par exemple dans les discours tenus contre l'islam, contre les musulmans, etc. C'est à peu près le même type de discours qui est tenu dans des pays qui ont été des empires coloniaux comme la France, que dans des pays comme le Danemark, ou d'autres pays comme les États-Unis, qui n'ont pas eu de tradition coloniale comparable à la France. Donc là, il faut faire attention de ne pas mettre sur le compte de la colonisation des éléments qui s'expliquent beaucoup par le pouvoir médiatique, par la construction, je le disais tout à l'heure, des images, des discours médiatiques qui imprègnent aujourd'hui constamment l'opinion à longueur de journée et qui ont besoin donc constamment de cette société spectacle pour vivre. Voilà. Mais ça, c'est plus des hypothèses que des analyses vraiment développées, parce que les travaux font encore un peu défaut.
C'était pour revenir en fait sur le terme en fait d'intégration que vous avez employé en fait tout à l'heure. et connaître en fait la position actuelle des historiens et des sociologues donc vis-à-vis du terme d'intégration, puisqu'on voit que historiquement on est passé donc du terme d'assimilation à celui d'intégration, et aujourd'hui certains sociologues surtout donc préfèrent enfin mettre davantage en avant le terme d'insertion, qui fait plus référence à une insertion sociale, économique et culturelle, sachant que en fait le terme d'intégration, comment, enfin quelle légitimité on peut avoir à l'utiliser encore lorsque les acteurs de l'histoire eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans ce terme. Voilà, ça va un petit peu.
Alors sur ce point-là, qui rejoint directement effectivement le sujet de ce soir, puisque là on est vraiment dans le discours, dans le langage, j'avais fait un article il y a quelque temps avec mon collègue, que vous connaissez peut-être, qui est sociologue, qui s'appelle Stéphane Beau, sur l'usage des mots. Hein, on avait fait un travail, on a essayé d'être assez précis, comment, selon les disciplines, là c'était dans le champ universitaire, eh bien vous avez des mots qui ont plus de succès. Par exemple, c'est les économistes qui diront plutôt insertion. Les sociologues disaient, à un moment ils disaient acculturation. Après, les psychosociologues ont dit adaptation. Après, bon, vous avez eu intégration. Et puis, vous aviez assimilation. Plus personne ne pouvait l'utiliser. Alors, avec un esprit un peu provocateur, mais on veut dire, nous, on peut très bien utiliser le mot assimilation. Le mot assimilation a une histoire scientifique qui est tout à fait noble, je dirais. Le mot assimilation, on le trouve, par exemple, dans le vocabulaire de la sociologie de Chicago, de l'école de Chicago, qui a été la première grande école de sociologie d'études sur l'immigration, et dont les premiers fondateurs étaient d'ardents militants de la cause des immigrés, des immigrants. On renvoie à Thomas Znanieki, tout ce qui est sur les Polonais, etc. Durkheim aussi a travaillé sur ce terme assimilation, de même que Norbert Elias, dans un sens qui était scientifique, c'est-à-dire qui consiste à dire que, moi aussi je l'avais utilisé un peu dans le creuset français, en disant que, ce que disait Norbert Elias, les enfants refont toujours l'histoire du monde. En quelques années, un enfant, depuis sa naissance, refait l'histoire du monde. Hein, c'est-à-dire, dans les acquisitions de base, du langage notamment, ce qu'on appelle la socialisation primaire, eh bien, il va refaire l'histoire du monde, ou en tout cas de toute la société dans laquelle il vit. C'était un argument très fort qui pouvait être avancé pour critiquer ceux qui voyaient un problème de la deuxième génération. En disant à la deuxième génération, ils restent marqués par leurs origines, etc. Ce qui est faux, toutes les études scientifiques l'ont démontré, qu'il y a des différences initiales chez les primo-immigrants. Évidemment, quelqu'un qui va venir d'un pays où on ne parle pas du tout le français, dans un village, etc., quand il va arriver brutalement en France, il aura une période d'adaptation qui pourrait être plus difficile que quelqu'un qui va venir de Belgique. Ou, je sais pas, bon, voilà, ça paraît évident. Mais tous ces raisonnements-là sont faux pour la deuxième génération. C'est-à-dire, dès qu'un enfant est né en France ou même... est arrivé en France à partir de, enfin, je sais pas, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, enfin bon, eh bien, les mécanismes d'acquisition, comme on dit, il a assimilé la culture. C'est à ce sens-là. C'est l'individu qui, par des mécanismes qui ne sont pas qu'intellectuels, qui sont aussi affectifs, va assimiler le monde qui l'entoure. Et c'est souvent pour ça qu'on a des récits à toutes les époques, des gens disant, ben, j'ai grandi en France, mon pays c'est la France, mais je peux encore avoir évidemment des liens avec le pays d'origine, etc. Enfin, tous ces discours de la bilatéralité des références, bon, bref. Donc, vous voyez, pour nous, les mots, eh bien, comme vous disiez tout à l'heure, après, vous avez des mots qui ont leur vie. Et malheureusement, les mots, ce n'est pas comme des symboles mathématiques. On voudrait bien, des fois, fabriquer notre langage et qu'il ne soit utilisé que par les chercheurs. Mais on ne peut pas. C'est l'une des difficultés des sciences sociales. Alors, bon, le mot intégration, à un moment donné, ce mot-là, personne ne l'employait, enfin, juste quelques petits sociologues comme Durkheim, qui en a donné une définition très précise pour Durkheim. S'intégrer, c'est participer à la vie d'un groupe. Le contraire d'intégration, c'est anomie. Anomie, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est, par exemple, les vieux qui sont tout seuls dans les foyers, ou même s'ils ne sont pas issus d'immigration, dans leur village, etc., qui n'ont personne. On ne les voit pas. Les gens qui sont en situation d'anomie, on n'en parle pas. Ils n'ont personne pour les défendre, il n'y a pas de caméra pour les filmer, rien. C'est une forme de souffrance qui existe et qui n'a pas de soutien même.
Donc c'est particulièrement important que les associations, les chercheurs aussi parlent de ces questions-là. Mais quand on dit les jeunes qui, par exemple, vont brûler des voitures ou d'autres, ne sont pas intégrés, c'est faux d'un point de vue sociologique. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut déjà être intégré quelque part. Il faut être déjà intégré à un groupe de jeunes, etc. Vous avez des tas de travaux sociologiques là-dessus. Puis il faut être déjà suffisamment performant pour réussir à attirer les caméras de télévision. Parce qu'on oublie toujours cette dimension-là de la lutte. Je passe, il y aurait une analyse. Donc, vous voyez, nous, dire qu'ils ne sont pas intégrés, ça n'a pas de sens. Là, le mot « intégré », il est dévié de son sens sociologique. C'est un mot qui est approprié par des politiques et ils utilisent ce mot comme un stigmate. Ils vont dire qu'ils ne sont pas intégrés parce qu'ils bougent le petit doigt, si vous voulez, parce qu'ils résistent ou ils ont des comportements de violence. Comme on disait que dans les années 50, le Parti communiste n'était pas intégré à la société française. C'était l'idée que les communistes n'étaient pas français, si vous voulez, parce qu'il y avait des grèves, il y avait aussi de la violence bien plus forte d'ailleurs qu'aujourd'hui, etc. Donc, vous voyez, alors qu'est-ce qui se passe? Quand un mot est utilisé systématiquement, tous les jours, par des journalistes et des hommes politiques, pour montrer du doigt un groupe, les personnes qui subissent, on leur dit sans arrêt « vous n'êtes pas intégrés », pour eux, ce mot, ça devient une insulte. Donc, ce n'est pas inscrit dans le mot lui-même, c'est inscrit dans l'usage des mots. Et vous pourrez prendre n'importe quel mot, le plus beau qui soit, le plus légitime qui soit, si vous l'utilisez pour stigmatiser des gens, ce mot deviendra une insulte. C'est ça l'histoire des mots. L'histoire du langage, elle est faite de ça. J'ai pris dans mon livre un exemple pour remonter loin dans le temps, c'est le mot « populace ». À Paris, dans les années 1840, vous aviez déjà des journalistes qui n'arrêtaient pas de faire des petits articles de faits divers pour dire « les ouvriers sont alcooliques, les ouvriers n'arrêtent pas de se battre dans les balles, etc. etc. » Et Victor Hugo, qui venait d'être élu à l'Académie française, qui était de droite au début, à l'époque, il siégeait du côté de la Chambre des Pairs, avait fait un discours où il ironisait, où il stigmatisait, il dénonçait la populace. C'était le mot qui existait dans le vocabulaire pour dénoncer la racaille, on dirait aujourd'hui, voyez. Et parmi ces ouvriers, il y avait une sorte d'élite d'ouvriers qui ont fondé leurs propres journaux. Et l'un de ces ouvriers, qui était un menuisier, qui s'appelait Jacques Vinçard, il a écrit à Victor Hugo. Et il a dit, vous n'avez pas le droit de nous traiter de populace. Hein. Et Victor Hugo, qui était un grand homme, quelque part, ça l'a beaucoup perturbé, quelque part. Parce qu'il n'avait même pas conscience qu'il employait un mot qui était conçu comme une insulte. Et moi, j'ai lu ça dans Louis Chevalier, dans son beau livre « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Et Chevalier montre que, finalement, ça a été déterminant dans l'évolution même de la carrière littéraire de Hugo. Et que le mot « misérable » que Victor Hugo avait utilisé au départ au sens « misérable », ça veut dire « racaille », là encore, vous voyez, un langage sécuritaire, vous voyez, de rejet d'une population. Le mot « misérable » dans le vocabulaire de Victor Hugo a changé pour désigner... Vous voyez, des pauvres gens. Il a construit, vous voyez, Les Misérables, c'est un livre qui évolue comme ça, en fonction des réponses que les gens, les ouvriers donc, de Paris ont faites à ces écrivains. Et Victor Hugo a fini par devenir quasiment le porte-parole des ouvriers. Alors, je ne ferai pas de comparaison avec l'actualité. L'actualité, d'abord, parce que notre président de la République n'est pas écrivain, ça se saurait. Et puis, ensuite, voilà. Mais voyez, ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé cette histoire-là, parce que qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que qu'est-ce qui est vital dans une société? C'est que les gens puissent se révolter. C'est que les gens puissent dire « Nous ne supportons pas qu'on nous parle comme ça. » Parce que si personne ne le dit, comment voulez-vous que les élites le sachent? Les gens qui ne vivent pas... Ils ne vivent pas dans ces quartiers, ils ne vivent pas dans ces milieux. Donc, ils ont une représentation complètement fantasmatique de ces milieux-là. Donc, la démocratie, c'est ça. C'est que les gens puissent s'exprimer. Là, c'est une idée que j'ai déjà développée antérieurement. Je dis que quel est le problème aujourd'hui? Là, je vais changer de casquette. Quel est le problème aujourd'hui? Ce n'est pas d'empêcher les gens de bouger le petit doigt. Donc, ce n'est pas la logique du tout sécuritaire. Elle n'a jamais réussi dans l'histoire. C'est de donner à ceux qui souffrent, à ceux qui s'estiment victimes de discrimination ou de stigmatisation, les moyens de s'exprimer et de résister des moyens qui soient conformes à la démocratie. Vous voyez, qui soient compatibles avec la démocratie et qui soient respectueux des autres. C'est ça le déficit dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire un déficit d'imagination de façon à donner des outils à ceux donc qui sont dans des positions où ils sont obligés, sinon leur propre identité s'écroulerait. Vous avez des gens qui sont tellement dans des situations difficiles que pour maintenir leur identité personnelle ou collective, ils ont besoin de résister, ils ont besoin de s'opposer. Donc, la solution, vous voyez, pour moi, en tout cas l'une des solutions, c'est de leur donner des moyens pour qu'ils puissent exprimer leur sentiment de révolte de la manière dont ils le veulent, mais que ce soit compatible avec le respect des autres. C'est ça, parce que ça, on ne peut pas transiger là-dessus, vous voyez. Et donc, voilà le problème. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je travaille à la Cité de l'immigration. J'essaye, à partir de ce lieu, de donner des outils qui peuvent être culturels, qui peuvent être, vous voyez, divers, qui peuvent être scientifiques, etc., pour que les gens s'approprient des outils et puis continuent à mener leur combat, un peu comme Jacques Vinçart le faisait en 1840, en écrivant dans un journal, si vous voulez, vous voyez. Et ce que je regrette le plus dans le contexte actuel, ou avec cette espèce de discours sécuritaire qui est un discours de facilité, c'est que justement on n'entende plus ce genre de message, vous voyez. Parce que pour moi, c'est aussi une des conceptions qu'on oublie, mais de la laïcité au sens fort du terme. Parce que c'est aussi un enjeu de la République. Là, il y a deux conceptions de la laïcité, une conception conservatrice et une conception progressiste. La conception conservatrice de la laïcité, c'est la répression. Hein, c'est de dire, vous n'avez pas porté de voile, vous devez marcher comme ci, vous devez marcher comme ça, il faut que plus que les élèves bougent le petit doigt dans les classes, etc. La conception progressiste de la laïcité, c'est l'autonomie. C'est de fournir des outils pour que les individus évoluent, mais en restant eux-mêmes, c'est-à-dire se forgent leurs propres convictions. Alors évidemment, moi je plaide aussi pour ça, parce que mon expérience, elle est le produit de ça. C'est-à-dire moi-même, j'ai évolué grâce à des gens qui m'ont permis de comprendre que tout le bénéfice qu'on pouvait tirer, je dirais, d'un apprentissage fondé sur l'autonomie et non pas sur la répression. Donc, bien évidemment, je dis ça comme ça, c'est un peu facile, mais ça reste quand même un enjeu aujourd'hui par rapport aux définitions même de ce que c'est que l'éducation. Et dans ce débat sur le voile, etc., j'étais frappé de voir combien cette vision progressiste de la laïcité avait reculé, y compris chez les enseignants. C'est quelque chose de quand même assez, assez inquiétant.
Alors, on va prendre une ou deux dernières questions, parce qu'il y a un train. Voilà. Donc, oui, j'ai une personne. Désolée.
Vous avez dit au début de votre introduction que les immigrés sont dominés. Ils peuvent l'être à plusieurs titres. D'abord parce qu'ils ne sont pas nationaux. Et ensuite parce que pour la majorité d'entre eux, ils appartiennent aux classes populaires. Alors je voudrais savoir comment vous avez été amené dans votre trajectoire intellectuelle à vous intéresser à cet objet socialement petit en en faisant un objet scientifique. Donc c'est ma première question. La deuxième chose, c'est pas vraiment une question, c'est davantage une remarque. Elle porte sur le traitement que vous faites de la question post-coloniale. C'est-à-dire que j'ai un petit peu le sentiment que vous avez tendance à évacuer un peu rapidement la question des rapports de domination post-coloniaux et qui peuvent se poursuivre aujourd'hui dans la société française, mais de façon évidemment extrêmement différente, sous des modalités très, très différentes de celles qui ont eu lieu dans les anciennes colonies. S'agissant par exemple de... Bon, vous mettez l'accent davantage sur le pouvoir médiatique, davantage que sur cette question-là. Mais dans les représentations qui sont véhiculées par les médias, on a quand même une continuité remarquable des stéréotypes, du stéréotype de l'arabe violent, du stéréotype du noir hypersexué, tous les deux particulièrement dangereux pour leurs femmes. Et ces stéréotypes-là, ils ont été construits pendant la période coloniale qu'on les retrouve aujourd'hui, qui sont repris comme tels par les médias, mais aussi par un certain nombre d'intellectuels féministes, hein, comme Liliane Candel ou comme Elisabeth Badinter, ce n'est peut-être pas un hasard. Tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que oui, bien sûr. C'est que vous raisonnez davantage en termes de classe sociale vous voulez raisonner davantage en termes de classe sociale que de rapports de domination raciaux dans la France d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que, bon, effectivement, que la question des dominations de classe, elle est très importante, elle explique un certain nombre de choses, mais même ceux qui, issus de l'immigration postcoloniale, font partie des catégories ultra favorisées, donc très bien dotées en capital culturel, sont exposées quotidiennement aux discriminations racistes aussi. Donc la question sociale et la question raciale s'articulent entre elles, mais l'une et l'autre ne se réduisent pas.
Je connais par cœur ce discours. Je veux dire, j'ai pas le temps là d'approfondir, mais il y a différents niveaux qu'il faudrait invoquer, mais. Moi, j'aime pas les expressions « ce n'est pas par hasard que », parce que pour moi, c'est le degré zéro de la démonstration. Voyez, il faut démontrer comment se construit un stéréotype, comment il se transmet, comment il passe d'une génération à l'autre, comment il est approprié par des individus, comment les appropriations sont différentielles, contradictoires, comment il y a de la domination à l'intérieur de catégories qui sont présentées par les porte-paroles ou les entrepreneurs de mémoire comme des catégories homogènes, etc. Il y a une multitude de choses qu'il faut faire, mais qui relèvent de la recherche. Il me faudrait 2 heures pour entrer dans les détails. Mais bon, je ne veux pas... Là, en plus, ce n'était pas une question, c'était une remarque. Donc, la question que vous avez posée donc, autour de l'objet socialement petit, voir ce que ça veut dire. Ce qu'on pouvait dire, c'est quand j'ai commencé à travailler sur l'immigration, c'était institutionnellement suicidaire. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde me disait, on ne fait pas carrière en faisant une thèse sur l'histoire d'immigration. Bon, moi, je l'ai fait parce qu'en fait, je ne pensais pas faire carrière, tout simplement. Je n'étais pas programmé pour ça. J'étais prof dans le secondaire à l'époque à Longwy, donc en Lorraine, au moment où il y a eu la grande grève des sidérurgistes de 79-80. Je me suis rendu compte en participant à cette grève que c'était vraiment l'importance de l'immigration, puisqu'en fait la violence de cette grève qui a duré 6 mois, etc., elle était liée au fait que ces gens-là étaient tous issus de l'immigration, enfin une grande partie était issue de l'immigration, et que vous voyez leur univers s'écrouler autour duquel ils avaient essayé justement de s'intégrer, dirons-nous. Et donc voilà, je me suis dit, je peux concilier mon aspiration, à être utile à quelque chose et mes aspirations intellectuelles. En m'orientant vers ce sujet, j'explique dans mon livre, mais là je n'insisterai pas, dans l'introduction de mon dernier livre, les raisons personnelles que j'avais de m'intéresser à la stigmatisation et comment justement l'héritage colonial pouvait affecter des personnes qui n'étaient pas forcément directement elles-mêmes issues de la colonisation. Vous voyez que je ne suis pas complètement aveugle et que mon histoire personnelle ne m'éloigne pas de tout ça, mais qu'il fallait aussi savoir prendre ses distances. Pour moi, la liberté, c'est de prendre une distance par rapport à ces déterminismes. Vous comprenez? Et là, je m'appuie aussi sur beaucoup de travaux, parce que j'essaye toujours de nourrir ce que je dis, de travaux scientifiques. Alors là, évidemment, en France, on n'en a pas tellement. Il faut se tourner du côté des États-Unis, et notamment de la façon dont la question noire se pose aux États-Unis. Et d'enfermer les individus dans un statut de victime, c'est ce qu'il y a de plus pernicieux et de plus négatif, y compris pour la personnalité de ces gens-là. Et là, vous avez des formes de domination à l'intérieur de ce qu'on appelle les communautés. Vous avez ceux qui vont parler à la place des autres, en se donnant la bonne conscience, en montrant du doigt le moindre chercheur qui fait une analyse critique, et qui enferment ceux qui n'ont pas accès eux-mêmes à l'espace public dans une statut d'éternelle minorité ou d'éternelle victime. Et ces gens-là vont ressasser leur situation de victime et en se mettant dans l'impossibilité de changer leur situation. C'est contre ça qu'il faut lutter, vous voyez? Parce que là, les uns vont se renvoyer à l'autre. Vous voyez? Repentance contre anti-repentance, et ainsi de suite. Et vous regardez ça, et c'est ceux-là qui ont accès aujourd'hui à l'espace public. Vous comprenez? Moi, entre Dieudonné et Finkielkraut, je ne me sens... Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît... C'est du grand guignol, si vous voulez. Et c'est ceux-là qui auront l'accès aux journalistes. Ce n'est pas les travaux des gens sérieux. Je ne dis pas ça pour moi. Moi, je suis... je ne souffre pas de un manque de reconnaissance. Mais je veux dire, je vois, moi, ce qui m'énerve, vous voyez, qui m'exaspère, c'est de voir tant de jeunes chercheurs qui font des choses formidables et qui ne trouvent pas d'éditeurs, par exemple. Parce qu'ils ne vont pas s'inscrire dans cette logique, vous voyez, à la mode des indigènes dans des cages ou dans des choses comme ça, vous voyez, parce qu'ils n'iront pas finalement utiliser la société spectacle pour vendre leur truc. Donc ça, je pense qu'il y a une éthique, hélas, pour moi, c'est aussi une question très forte de militantisme, de faire en sorte que ces gens-là puissent aussi avoir accès à l'espace public. Parce que c'est injuste à leur égard, hein, parce que leur travail, on va dire qu'il n'y a rien eu de fait sur l'histoire coloniale, ce qui est un scandaleux, je dirais, vous voyez les bibliographies que nous avons. Bon, et puis d'un autre côté, c'est aussi injuste par rapport aux citoyens, qui aimeraient bien aussi avoir accès à ce type de travail.
pour se former leur jugement et qui ne peuvent pas non plus y avoir accès. Donc, vous voyez, comme quoi les choses sont compliquées et que, bon, ben voilà, il faut savoir aussi résister par rapport à des milieux où, par ailleurs, on peut se sentir proche, je dirais, par rapport à des gens qui vont se battre contre les dominants ou contre les formes de discours hégémoniques dont on est abreuvé tous les jours à la télévision. Mais pour nous, les choses sont très compliquées parce que, justement, on n'est pas dans un camp ou dans un autre. On essaie de garder notre liberté de penser. Parfois, elle nous amène à être critiques par rapport à des formes de stéréotypes ou de contre-stéréotypes.
Donc, je vais donner la parole à une dernière question. C'est un peu autoritaire, mais c'est comme ça, on est obligé à un moment de l'arrêter.
Une question qui s'adresse plus aux chercheurs engagés, Gérard Noiriel. J'imagine que la question ne vous est pas indifférente de la recomposition de la gauche. On en parle beaucoup depuis quelques jours. Quel pourrait être un discours de gauche sur l'immigration? On sent la gauche finalement très embarrassée. Bon, y a l'extrême gauche qui, elle, ne se pose pas de questions. C'est régularisation de tous les sans-papiers. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut apparaître, à certains égards, une position ultralibérale. Et puis, d'autre côté, il y a la droite qui lance des choses assez habiles, comme par exemple cette idée de régularisation sur critères, en plus en mettant en avant Arnaud Klarsfeld, etc. Bon, on a vu ce qu'il en était. On avait fixé les chiffres dès le départ, et puis il n'y avait pas grand monde de régulariser. Par ailleurs aussi, on a lancé cette idée d'immigration choisie, donc une présentation positive de l'immigration. Et par rapport à ça, on sent la gauche très, un peu, la gauche, disons, le gouvernement, très embarrassé. On a vu dans le débat cet échange entre Sarkozy et Royal, où Sarkozy lui demande: mais vous êtes pour la régularisation de tous les sans-papiers? Non, je suis pour la régularisation sur critères. Et il lui répond: vous êtes comme moi finalement. Alors il dit: oui, mais c'est pas exactement les mêmes critères que vous, c'est une application plus généreuse des critères. Finalement, on a l'impression que cette gauche ne sait pas quoi dire sur l'immigration.
Alors qu'elle ne dise rien. Non, je veux dire, moi je pense, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la politique, je dis, c'est des rapports de force. Aujourd'hui, le rapport de force tel qu'il est constitué et fabriqué aussi par les sondages, enfin, je ne peux pas entrer dans l'analyse, mais fait que quand on parle d'immigration, le fait même d'aborder ça, ça va servir la droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer dans ce domaine-là. Mais je crois que depuis 1984, tout est dit sur la politique d'immigration. Donc en fait, ce qu'on constate dans l'histoire de l'immigration, c'est que les moments où la législation change le plus, c'est les moments où on en parle le moins dans l'espace public. Et inversement, les moments où on en parle le plus dans l'espace public, c'est le moment où, de fait, ça change le moins dans la législation. En fait, là, on vit aujourd'hui encore sur la législation de 1984, où il y a eu un consensus entre la droite et la gauche pour dire, en gros, on ferme les frontières et puis on intègre ceux qui sont là. Alors, vous voyez, le problème, en tout cas, moi, ce n'est pas à moi qu'il faut demander, je ne sais pas ce que pourrait être un bon discours de gauche sur l'immigration. Je pense que ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une autonomisation du courant militant humanitaire autour des sans-papiers, etc., c'est bien, c'est une bonne chose. Moi-même, mon militantisme par rapport au droit d'asile, je l'ai au sein d'une association, vous voyez, parce que ceux qui ont la responsabilité de la gestion d'un État sont confrontés à des contradictions souvent impossibles. Donc il est bien que la société civile se mobilise, défende les droits de l'homme. Et que, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire comprendre à la gauche qu'elle a intérêt aussi à conforter ses liens avec ces mouvements-là, parce que dans l'histoire, c'est toujours grâce à ces liaisons, quand elle a réussi à gagner, c'est toujours en liaison avec ça. Mais bon, vous avez donné vous-même un exemple qui montre que les choses sont compliquées, en tout cas dans le contexte actuel. Bon, alors j'aurais peut-être quelques petits éléments à donner, mais j'ai pas le temps, mais sur qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour convaincre l'opinion. Là, on est en plein dans la rhétorique. Je crois que justement, on voit bien, par exemple, comment les mouvements des sans-papiers, ils arrivent à élargir les bases traditionnelles du droit de gauche là-dessus. Quand on va toucher, on va faire pleurer dans les chaumières. On aura l'élève, le pauvre, qui va être expulsé. Bon, et quand on arrive à attirer les journalistes, des cinéastes, un certain nombre de gens comme ça, qui ont une possibilité de construire des représentations publiques autour de causes comme ça, eh bien, il faut le faire, parce que malheureusement, peut-être de plus en plus, aujourd'hui, on passe dans une logique qui est une logique affective, on pourrait dire. voyez. Et il faut, c'est pas du cynisme que de se dire, ben, il faut aussi, disons, que les forces progressistes sachent utiliser ce langage-là. Et moi-même, vous voyez, pour moi, c'est vraiment une révision de ce que je disais il y a peut-être 15 ou 20 ans là-dessus, où j'étais plus dans la, disant, il faut être rationnel, etc. Ben là, moi, vraiment, je m'intéresse à des logiques, à des choses autour du spectacle vivant, pour essayer de traduire le travail que j'ai pu faire en tant qu'historien, dans des formes aussi qui vont parler à des gens qui seront rétifs au discours, comme je tiens ici ce soir, vous voyez, qui seront plus liés à une manière de jouer sur les affects, sur les identifications, sur la partie humaine qui reste malgré tout en chacun d'entre nous, etc., etc. Voilà. Et avant de terminer complètement, je voulais vous dire aussi que j'étais par ailleurs président du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. C'est aussi un autre enjeu très important. Et que nous avions donc un site internet que je vous invitais donc à consulter, parce que ce serait une manière aussi de prolonger cette discussion. Alors, le site, si vous tapez sur Google CVUH, les initiales du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, eh bien vous trouverez toute une série d'éléments qui touchent à la fois à ces questions, mais plus largement sur la place de l'histoire, sur l'utilisation de l'histoire par les hommes politiques, etc. Et bien sûr, cette association cherche aussi à élargir le nombre de ses adhérents, hein, et que vous êtes tous les bienvenus, et que nous faisons aussi des conférences décentralisées, et qui, bien sûr, n'est pas totalement impossible de venir jusqu'à Lyon pour venir parler de tout cela et de ce qui va se passer, parce que là, on est au début, hein, d'une logique où l'histoire, la mémoire vont être de plus en plus utilisées à des fins politiques, et donc il faut être vigilant aussi par rapport à ces questions-là, au-delà de la question des migrations.